je fais un essai. Oui, bonjour. Donc nous allons commencer. C'est parti. Alors bienvenue au premier pôle Info Santé de la saison 2019-2020. C'est le 124e conférence débat, c'est-à-dire que ça fait plus de 25 ans que le CHU organise ça avec l'espace Mendès France. On n'est pas à la première, mais moi je suis à la première, donc vous allez un peu m'excuser pour si je bafouille un petit peu aujourd'hui. Merci d'avance. Alors ces conférences débat sont conçues dans un esprit de prévention et d'éducation à la santé. Il y a sûrement beaucoup d'habitués ici qui viennent de manière régulière. C'est ouvert à tous. Ça permet de rencontrer les professionnels de la santé, qu'ils soient praticiens hospitaliers ou libéraux. Entrez. Il y a encore des places, asseyez-vous. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, la 124e a pour thème le mal de dos, comment vivre avec, comme vous savez. Et donc, nous avons 4 invités aujourd'hui pour parler de ça. Et avant de vous les présenter, je voulais vous dire aussi que vous avez eu un dossier en arrivant. Dans ce dossier, vous avez donc un questionnaire de satisfaction que vous pourrez remettre à la fin. Vous pourrez dire ce que vous avez pensé de la conférence débat, des intervenants, et faire des propositions pour les thèmes de 2020 si vous le souhaitez. Vous avez dedans des renseignements sur le fonds Aliénor, qui est un fonds de dotation au profit de la recherche en santé, avec notamment des renseignements sur un projet de recherche de Philippe Rigoire, qui est ici ce soir, qui intervient ce soir. Vous avez, à la fin, donc après les 4 interventions, vous allez pouvoir poser des questions. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez poser la question aussi par écrit. Donc il y a une petite fiche à l'intérieur. Si vous ne voulez pas la poser à l'oral, vous me remettrez cette petite fiche de manière à ce que je puisse poser la question pour vous. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? C'est un dossier bien complet. Vous avez de quoi prendre des notes avec chaque... Chaque intervenant a des slides et vous avez en face de quoi prendre des notes si vous le souhaitez. Voilà. Que dire d'autre sur ce dossier? Alors, c'est la dernière fois qu'il y a un dossier, en fait, pour tout vous dire, puisque le CHU s'engage dans une démarche de développement durable. Donc, la prochaine fois, vous aurez moins de papier entre les mains. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de choses. La prochaine fois, vous trouverez des renseignements plutôt en ligne et vous aurez quand même de quoi poser des questions si vous le souhaitez, etc. Alors, nos intervenants d'aujourd'hui. Nicolas Neidich. Excusez-moi, sociologue de la douleur au CHU de Poitiers et à l'Université de Strasbourg. Alors, il propose de mettre des mots MAUX sur les mots MOTS, et non pas l'inverse comme souvent on nous propose. Le docteur Julien Giraudon, rhumatologue, dans un cabinet à Saint-Benoît, qui fera une conférence ayant pour thème orchestrer le lien médecine de ville-hôpital pour une meilleure prise en charge, le point de vue du rhumatologue. Jean-Philippe Deneuville, kinésithérapeute et expert international de la méthode McKenzie. Non ?
Si.
International, c'est pas ça ? Bon, expert régional, international, régionaux internationaux de la méthode McKenzie, qui a cabiné à Paris et qui est chercheur également à Poitiers. Alors, attendez. Comment privilégier l'auto-rééducation ? La mécanothérapie selon McKenzie, concept et pratique.
J'ai fait plus simple. Soignez
votre dos vous-même. Vous auriez pu me le dire avant. Et enfin, le professeur Philippe Rigoire. Alors, attention, neurochirurgien, responsable de l'unité rachis neurostimulation handicap, chercheur à Prismatique à l'Institut Péprime, et travaille pour le CHU de Poitiers et l'Université de Poitiers. Et c'est lui qui va présenter un peu mieux que moi tout à l'heure tous les intervenants. Voilà. Ah oui, vous aborderez la chirurgie du rachis dégénératif, l'option du dernier recours, un travail d'équipe. Ok. Je vous laisse prendre la parole, en fait. Et c'est voilà. Moi, je vous retrouve à la fin pour les questions. Et voilà, par écrit ou à l'oral, comme vous le souhaitez. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Voilà, donc ce soir, on va parler un peu du mal de dos. Alors, vous vous adressez à nous, mais moi, je m'adresse à vous, puisque le mal de dos, ça concerne à peu près 100% des gens dans cette salle. 89% dans les enquêtes, 100% dans la réalité, a déjà souffert des problèmes de dos. Ça nous est tous arrivé. Alors, quoi de plus banal que ça? Puisque, effectivement, c'est du quotidien, c'est le jardinage le week-end, on est coincé quand on essaie de sortir de la baignoire à un moment donné, qu'on fait un faux mouvement ou qu'on se baisse pour ramasser ses lacets. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas banaliser, parce que là, je vous avoue que je reviens du grand feu et j'ai fait une consultation toute la journée du handicap et de la douleur à Niort. On a un partenariat, une collaboration avec Niort pour les gens qui ont du mal à se déplacer, justement. Et les lombalgiques que j'ai vus, moi, cet après-midi, le jeune vice-champion du monde de sidecar qui est aujourd'hui paraplégique dans son fauteuil, là, qui a eu son accident en juin. Ce matin, des douloureux chroniques qui ont eu une vie totalement dévastée par la douleur après s'être fait opérer 5, 6, 9, 12 fois pour certains du dos sans succès. Eh ben, le mal de dos, c'est pas forcément une petite affaire qui se règle en 3 minutes, effectivement, en sortant de sa douche. Donc ça nous concerne tous, c'est très banal, mais il ne faut pas le banaliser, ça peut aller très très loin. On croit que c'est un problème très personnel, parce que chacun a son dos, chacun a sa fragilité. Moi, je n'ai pas fait de judo, je n'ai pas fait de sport toute ma vie jusqu'à ce que je réalise que c'est important à 35 ans. Parce que le médecin scolaire, quand j'étais petit et que j'avais 6 ans, au moment où tous mes copains allaient faire du judo, il a dit « Grégoire, lui, il a le dos trop fragile, hein. Il n'y arrivera pas, il faut qu'il fasse de la musique. » Et puis j'ai fait de la musique. Donc, c'est très personnel, le dos. C'est quelque chose qui nous appartient et qui nous concerne pour soi. Mais aujourd'hui, quand on allume la télé, là, quand on regarde les médias, quand on écoute la radio ce matin là, en allant à l'hôpital ou en allant à la consultation de Niort, eh ben, aujourd'hui, c'est plus un problème personnel, individuel, la lombalgie. Aujourd'hui, on est dans une société qu'on a plein le... Je ne vais pas au bout de la phrase parce qu'on est filmé, il faut faire gaffe, quoi. En avoir plein le dos, en avoir plein le... avoir mal aux reins, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, déjà, on ne parle pas le même langage. On ne sait pas de quoi on parle. La plupart des gens, quand ils utilisent cette expression, ça peut être parce qu'il y a une souffrance psychologique collective qui fait qu'on va faire des barbecues le week-end sur le rond-point route de Limoges avec un gilet. Ou bien ça peut être parce qu'effectivement, on a un problème intrinsèque très mécanique, très organique, avec un organe qui peut faire mal. Alors pour qu'on essaie d'y voir un peu plus clair dans ce paysage qui peut être parfois perçu de façon trouble, on a imaginé en fait faire cette intervention en 4 parties. C'est des interventions assez courtes de 15 minutes, parce que notre idée c'est d'interagir avec vous à la fin. Alors je préfère recadrer tout de suite, on ne va pas faire une consultation de médecine personnalisée à chacun d'entre vous qui viendrait peut-être parce qu'il a un beau-frère qui connaît ou un copain qui a eu une IRM montrant une hernie discale ou qui vient lui-même parce qu'il a un problème de dos. Pour ça, il y a le CHU, il y a la médecine de ville, il y a tout un système qu'on va vous présenter aujourd'hui pour essayer de vous aider à titre personnel. Mais par contre, le but de cette intervention, c'est d'essayer de vous sensibiliser par rapport effectivement à la prise en charge et à l'errance globale qu'il peut y avoir autour de cette maladie qui est aujourd'hui la première cause d'arrêt de travail en France. C'est des millions et des millions pour la sécurité sociale et c'est des millions et des millions de personnes qui ne peuvent pas être contents d'aller au boulot le matin pour faire quelque chose de leur vie et qui sont cloués chez eux dans le canapé bourrés de médicaments. Donc c'est quelque chose qui est important effectivement à aborder de manière collective. Alors pour ça, pour faire très simple, je me suis dit que le sociologue qui bosse avec nous au labo, c'était la personne parfaite. D'une part parce qu'il est hyper talentueux et d'autre part parce qu'il est hyper sympa et qu'il parle très bien en public. Il était à Strasbourg la semaine dernière pour parler de problématiques sociologiques. Et effectivement, je lui ai dit, pour déjà qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle, quand on dit ah, « j'ai mal au rein », bon, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on appelle la terminologie. Ça veut dire quoi la lombalgie, ça veut dire quoi le mal de dos. Il va vous expliquer un peu tout ça dans sa première présentation. La deuxième personne qui me paraissait très importante, c'était quelqu'un qui n'était pas du CHU. Donc, je suis allé voir mes copains et j'ai dit « c'est pas une espèce de pub pour le CHU là ce soir, c'est une discussion ouverte avec le grand public à Poitiers pour qu'on essaie de voir comment ça se passe au niveau de la prise en charge globale des problèmes de dos. Et les malades qu'on voit en CHU pour les problèmes de dos, c'est 1% des malades que le docteur Giraudon lui voit en ville, dans son cabinet à Saint-Benoît, alors qu'il a été formé au CHU et qu'il est aujourd'hui rhumatologue de ville. Donc comme ça nous concerne tous, c'est une problématique effectivement qu'il ne faut pas réserver au CHU. Il faut avoir un super réseau, être super équipé, avoir des intervenants, vous allez les voir, qui se succèdent et qui ont chacun leur place dans la petite trousse à outils qu'on peut déployer. Mais ça ne se fait pas qu'au CHU, ça se fait en partenariat avec la ville. Donc il nous faut un chef d'orchestre pour ça. Il faut quelqu'un qui dit, là, il y a 80% de chances que ça guérisse. Là, il faut faire des examens ou il faut aller voir le chirurgien, peut-être, des fois, rarement. Et cette personne-là, ce chef d'orchestre, c'est le médecin de la douleur du dos, donc le rhumatologue le plus souvent, ou un bon généraliste, ou un bon médecin de la douleur, mais c'est un praticien le plus souvent de ville. Voilà. Ensuite, j'ai été très très heureux de pouvoir convier Jean-Philippe, qui a été mon meilleur élève en kiné il y a plus de 15 ans sur les bancs de l'école de kiné de Poitiers, Et Jean-Philippe, c'était un petit élève kiné qui prenait aucune note, qui captait tout et qui notait tout, enfin qui notait tout dans sa tête sans rien noter sur le papier. Et puis Jean-Philippe, il est devenu kiné, puis il est devenu expert, puis il a fait une formation de McKenzie, qui est une technique très peu connue en France, vous allez le voir. Et puis il a été diplômé d'un diplôme international qui est reconnu à partir de la Nouvelle-Zélande et du monde entier. Puis il a fait un master de recherche à Glasgow en Écosse, parce qu'il est curieux, parce qu'il est bon. Et puis ensuite, il est allé traîner au Bax Texas Institute aux États-Unis. Et puis, fort de tout ce savoir, il est aujourd'hui effectivement dans des réunions à la Haute Autorité de Santé. Il est expert sur cette technique-là. Et il est dans une démarche extrêmement, extrêmement, je dirais, philanthropique. Et ça me fait très plaisir qu'il soit là, parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers le patient. C'est-à-dire, en gros, il y a plusieurs types de kinés, il y a plusieurs types de chirurgiens, il y a plusieurs types de garagistes, il y a plusieurs types de boulangers. C'est dur de faire un bon pain et un bon croissant en même temps. Un garagiste, c'est dur d'être honnête quand vous pouvez prendre 2000 euros à un client et puis que vous dites, c'est rien, on va changer la pièce pour 40 euros, ça ira très bien, puis demain, tu peux rouler. Donc, vous le savez très bien, on discutera des chirurgiens avec moi, mais il y a des kinés, effectivement, qui prennent 6 personnes à la fois, qui font tourner les gens sur le tapis de gymnase, l'électrostimulation, la balnéothérapie, le machin, ils ont super équipement, et puis ils font tourner une espèce d'usine. Le kiné de McKenzie, lui, il prend une personne toutes les 45 minutes. Donc, c'est pas du tout le même concept. Et le but de cette technique, c'est de dire, on va faire un examen très solide, beaucoup plus solide que beaucoup de médecins qui n'ont malheureusement pas été assez formés de façon assez poussée, et on va essayer de déployer des techniques totalement mini-invasives pour essayer d'éviter un acte invasif, une chirurgie ou autre. Et croyez-moi ou pas, il y a 3 semaines, je voyais une danseuse professionnelle de salsa qui est vraiment, qui doit faire un stage en Colombie en début d'année. Elle vient, elle a une grosse hernie, elle a une vraie pathologie qui pour l'instant lui pourrit la vie. Elle ne peut plus faire de danse, elle va bousiller sa vie. Et la première chose que j'ai faite, c'est je lui ai envoyé un copain expert McKenzie pour éviter une opération. Parce que peut-être qu'elle va réussir à s'auto-rééduquer. Et comme dit Jean-Philippe dans son nouveau titre, vous allez voir, qui est beaucoup plus, beaucoup moins sophistiqué qu'un truc bien compliqué que personne ne comprend, c'est comment se soigner soi-même, quoi. Parce que le but, c'est ça. C'est pas d'avoir des papouilles et puis un quart d'heure après, quand on sort du kiné, replonger dans la lombalgie chronique. C'est pas ça l'idée. Surtout si on veut faire des économies à la sécurité sociale. Donc ça, c'est pour éviter l'opération. Et puis ce soir, je vous présenterai une partie de l'équipe qui est à mes côtés. On a monté une équipe à Poitiers, Rachis Neurostimulation Handicap. Alors ça paraissait compliqué à dire ou à énoncer, mais en fait le concept est super simple. Nous, quand on a un patient qui arrive aux urgences pour une problématique aiguë, de sciatique aiguë, et qu'il faut discuter de l'opérer en urgence, on est capable, on essaye en tout cas, de prendre la bonne décision, éviter l'opération s'il faut, faire l'opération dans les meilleures conditions s'il faut, et ensuite la démarche c'est de l'accompagner et que le patient reste au centre de cette prise en charge jusqu'au bout. Qu'il y ait des déficits, qu'il y ait des douleurs, qu'il y ait un handicap, qu'il y ait un problème de réinsertion socio-professionnelle. Et c'est ça qui a nourri l'idée de créer cette unité, vous allez le voir, à cheval, complètement, entre plusieurs spécialités. Alors les gens, au début, ils ont dit, votre truc, ça va marcher 15 jours, mais avec l'ego et le melon des chirurgiens entre eux, ils vont se bouffer, puis ça ne va pas tenir. Et là, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble main dans la main. C'est des frères pour moi et des sœurs, puisqu'on a, des gens, effectivement, on n'a pas que des hommes dans cette équipe. Il y a aussi Cécile qui est à nos côtés ce soir, par exemple. Et l'idée, c'est de dire, chirurgien orthopédiste, neurochirurgien, on va tous se mettre autour de la table parce qu'on a les mêmes patients, on a les mêmes problèmes. Et puis, si à un moment donné la question de la chirurgie se pose, autant réfléchir ensemble et que chacun trouve sa place dans une équipe où on sait passer le relais à l'autre quand on a dépassé notre champ d'intérêt ou de compétences. Et c'est ça le but de la vie quand on bosse. C'est que dès qu'on ne sait plus faire, on passe au copain et puis il prend le relais. C'est le patient qui est important là-dedans. Voilà, et on bosse main dans la main avec des anesthésistes, des médecins de la douleur, des rééducateurs, il y en avait 10 cet après-midi à la consultation à Niort, des rhumatologues, il y en avait aussi effectivement, et il y en a ce soir, et il y en avait ce matin à la consultation, et on essaie d'avoir ce regard multi-angulaire pour le bien du patient. Voilà, donc j'ai fini mon introduction, sans plus attendre, je vais passer le micro à Nicolas Najdic qui va vous mettre des mots MAUX sur les mots MOTS et l'inverse. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Philippe pour cette introduction. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir, déjà parce que je trouve que cette idée de faire un colloque interdisciplinaire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et puis parce que mes travaux de thèse, en fait, ils portent spécifiquement sur cette thématique qui est le mal de dos, comment vivre avec. Alors comme on disait, moi je suis sociologue dans l'équipe Prismatics et je travaille particulièrement sur le parcours de soins des patients et puis sur l'évolution qu'induit la douleur dans leur quotidien, c'est-à-dire leur quotidien avec leur famille, leur quotidien dans leur activité professionnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mots, c'est une autre thématique qui me tient particulièrement à cœur, et avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de regarder une petite vidéo, et d'essayer, elle dure 30 secondes, et d'essayer d'être un petit peu attentif pour relever les éléments qui pourraient vous paraître intéressants.
Il est dur How's your back, homie?
I can't complain.
Nah, that's for the prisoners. You can complain all you want.
Oh, God, my back! It hurts so much, and my job is so unfulfilling!
How's your back, Dad?
Well, there's a dull ache, certainly. And overlaid on that is a club sandwich of pain. Only instead of bacon, there's agony.
Your spine is more twisted than Sinbad's take on marriage.
So, just give me some drugs and surgery.
Oh, I'd love to, but to be honest, modern medicine has a lousy record of treating the back.
Alors, en dehors du fait que je suis un fan inconditionnel des Simpsons, j'ai trouvé cette vidéo particulièrement intéressante parce que pour moi, elle balaye beaucoup des problématiques de la lombalgie. La première, c'est que, on le voit, là je l'ai pris par ordre chronologique, et d'abord il y a le cadre d'une plainte. On voit bien que Homer, il n'ose se plaindre de sa problématique douloureuse qu'à partir du moment où il a l'impression d'avoir la permission de le faire. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui ont des douleurs chroniques vivent au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas forcément facile de se plaindre auprès de ses proches, ça l'est encore moins sur son lieu de travail. La deuxième dimension que je trouvais particulièrement intéressante, c'est celle du travail. On voit bien que la première cause qui va attribuer à ses douleurs, c'est celle de son travail, dire qu'il a un travail qui est vraiment ingrat. La troisième dimension, c'est les mots et métaphores de la douleur. Vous savez, on a un concept qui dit la douleur, c'est quelque chose qui est indicible, quelque chose qu'on a du mal à partager avec les autres. Et donc, pour arriver à la partager, on va utiliser des choses du quotidien. Et là, vous savez que Homer, c'est un gros mangeur, il aime beaucoup la nourriture. Donc, les métaphores qu'il va utiliser, c'est celle de la nourriture. Le club sandwich de bacon, sauf qu'à la place du bacon, il y a de l'agonie. L'autre dimension, c'est les petits ajustements du quotidien qui vont permettre de supporter la douleur. On le voit arriver dans la cuisine, il a un oreiller attaché au dos. C'est pas très commun, mais ça lui permet de supporter sa douleur. Enfin, il y a les attentes de traitement. On voit que quand il est face à son médecin, il va demander à avoir une prise en charge médicamenteuse, mais aussi directement, et là c'est intéressant, une prise en charge chirurgicale. Et on arrive sur la problématique qui va tous nous réunir aujourd'hui, c'est que finalement, il y a des limites à la médecine. On a l'impression que la médecine aujourd'hui, elle est capable de tout, et finalement, on se rend compte que dans le monde de la douleur, il y reste encore des dimensions qui sont pas totalement, qui sont encore un peu floues. Alors, au niveau des mots des patients, je suis allé sur un blog de kiné et j'ai trouvé plusieurs expressions qui me semblaient assez intéressantes. Quand un patient a mal au dos, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « j'ai un nerf déplacé » ou alors « j'ai fait un faux mouvement »,« je me suis fait un tour de rein » et « j'ai le dos barré ». En fait, ces expressions-là, ces expressions du quotidien, elles ne sont pas tout à fait justes. Au niveau des représentations, avoir un nerf déplacé, c'est quelque chose qui est strictement impossible. Faire un faux mouvement, ça implique une idée qu'il y aurait des mouvements qui sont vrais. Mais il n'y a pas de vrai mouvement, ça n'existe pas. Et puis, il y a la phrase « je me suis fait un tour de rein ». Le rein, c'est un organe, il ne tourne pas sur lui-même. C'est totalement impossible. Et puis, le dos barré, comme s'il y avait une barre qui était mise au niveau du dos. Et en fait, ces métaphores, si elles permettent aux gens de communiquer au niveau de leur douleur, elles induisent plusieurs problématiques. La première problématique, c'est celle de la communication. Alors d'habitude, on pense que la difficulté de communication, c'est toujours dans le sens du professionnel de santé qui utilise un charabia absolument incompréhensible vers le patient. Mais en fait, on se rend compte aussi que des fois, quand le patient utilise des mots qui sont trop simples, le professionnel de santé, il n'y comprend pas grand-chose. Au point qu'en fait, personnellement, j'en viens à considérer qu'un bon professionnel de santé dans la prise en charge de la douleur, ce n'est pas forcément un bon technicien, mais c'est une personne qui est capable de traduire les mots des patients. Et puis une deuxième dimension, qui je pense est encore plus importante que celle-ci, ou en tout cas qui rentre plus dans le cadre de cette présentation, c'est que ces mots ils vont induire des représentations. Et la première, quand on dit « j'ai fait un faux mouvement », donc il n'y a pas de vrai mouvement, c'est la peur du mouvement. Or, vous avez pu voir dans les campagnes de prévention de l'assurance maladie que le mouvement, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout sur les phases aiguës. Et puis, pour prendre un deuxième exemple, celui du tour de rein, qui n'est pas innervé par les racines lombaires, donc c'est absolument impossible qu'il y ait une corrélation entre le rein et puis la douleur du dos, c'est que ce « j'ai mal au rein », ça induit une vision organiciste, comme s'il y avait un organe qui était défaillant, et qui du coup présuppose que le seul traitement qu'on puisse envisager, c'est un traitement qui soit médicamenteux, soit chirurgical, ce qui évidemment n'est pas le cas. Alors, quelques petites précisions pour aujourd'hui, c'est les petits outils qui vous permettront de suivre les quatre présentations. Alors, la première, c'est que les lombalgies, on l'a dit, on le redit, mais c'est important d'en prendre conscience, c'est que c'est la forme de douleur chronique qui touche le plus de monde. Ça touche 80% de la population au cours de sa vie, plus toutes les personnes qui ne les déclarent pas. Au niveau des mots, juste pour vous dire, je vous disais que les mots des patients n'étaient pas toujours corrects, mais les mots des professionnels de santé ne sont pas plus corrects. Parce que quand on regarde lombalgie, qu'est-ce que ça veut dire ? Lombe, c'est pour juste désigner une zone, et algie, ça veut dire une douleur diffuse. On ne sait pas ce que c'est. Vous avez des formes qui s'appellent aussi la lombo-radicule-algie. Donc là, c'est une douleur qui va concerner la zone lombaire, lombe, radicule, jambe et algie pour douleur. Et puis, il faut quand même se rendre compte, mais c'est quelque chose qu'on pourra discuter avec Jean-Philippe, c'est que 90% des lombalgies ont une issue qui est favorable, donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la chirurgie ou jusqu'au traitement morphinique. La deuxième dimension, c'est que la durée de la douleur, elle est absolument déterminante. Il faut vraiment faire la distinction entre la douleur aiguë, qui est une douleur qui dure depuis moins de 3 mois, et la douleur chronique, qui dure depuis plus de 3 mois. Les mécanismes physiologiques sont complètement différents, et c'en est de même pour les mécanismes, pour les conséquences psychologiques et sociales. Et une dernière notion qui est extrêmement importante, c'est la distinction entre les douleurs nociceptives, donc ce qu'on appelle les douleurs mécaniques, en fait, qui sont les douleurs qui vous disent « Oh là, attention, il y a une atteinte à votre intégrité corporelle. » Quand vous mettez la main sur une plaque qui est chaude, heureusement que vous avez mal, parce que vous l'enlevez, autrement vous êtes brûlé. Donc ça, c'est la douleur mécanique nociceptive. Et la deuxième douleur, c'est la douleur neuropathique, c'est une douleur qui est liée à une lésion des nerfs. Et j'y ai repensé, mais j'avais trouvé une citation de René Le Riche, j'espère que je vais arriver à vous la ressortir, c'était « La douleur est un sinistre cadeau qui toujours diminue l'homme et le rend plus malade qu'il ne devrait être. » En fait, c'est que la douleur neuropathique, c'est une douleur qui n'a strictement aucun sens. Elle ne vous informe pas d'une lésion, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne pouvez rien y faire, vous n'avez aucun moyen de prévention dessus. Donc ça, extrêmement important à garder en tête. Alors la douleur et les lombalgies, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Déjà parce qu'au niveau anatomique, si vous prenez juste la région lombaire, vous voyez qu'il y a plein de structures qui peuvent être incriminées. Vous avez les structures osseuses, vous avez les structures ligamenteuses, vous avez les structures vasculaires, vous avez les structures musculaires, etc., etc. Donc là, déjà, vous voyez qu'il peut y avoir une complexité pour les professionnels de santé. Je dirais que c'est encore plus complexe, et c'est peut-être un tort de la médecine, c'est que vous savez, la médecine est divisée en autant de spécialités que ce qu'il existe de parties du corps. Mais les lombalgies, la cause, elle n'est pas limitée à une problématique de lombaire. Ça peut être beaucoup plus vaste. Je voyais un patient il y a une semaine. Lui, il a une lombalgie. Mais comment elle a débuté? D'abord par un accident. Il s'est fait une fracture de cheville. Et puis, ça a eu une incidence sur sa hanche. Et puis, finalement, ça a eu une incidence sur son lombaire. Et aujourd'hui, il est douloureux chronique avec un mal de dos, pas avec un mal de cheville. Donc, de prendre en compte l'ensemble du corps du patient, et beaucoup appris dans les congrès d'orthopédie, d'ailleurs, je trouve ça assez fort, c'est une complexité. Et donc, parce que vous avez autant de structures qui peuvent être incriminées, vous avez beaucoup de possibilités sur les causes de la douleur. Évidemment, vous avez les problématiques musculaires, soit vous n'êtes pas assez musclé, soit vous êtes trop musclé d'un côté et pas assez de l'autre. Le manque de souplesse, vous pouvez avoir les pathologies telles que l'arthrose ou les hernies discales dont on parle souvent. Et puis, vous avez les spondylolisthésies, c'est un glissement d'une vertèbre sur une autre, et les douleurs neuropathiques dont reparlera notamment le professeur Rigoire. Et donc là, vous voyez, la douleur chronique, les lombalgies, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui en plus fait intervenir une multitude de professionnels de santé sur des thématiques qui sont complètement différentes. Et bien sûr, chacun de ces professionnels de santé, il a une thérapie qui jugera celle qu'il a l'habitude d'utiliser et qui va juger comme étant la plus efficace. Et là, ça devient extrêmement compliqué de prendre en charge une lombalgie chronique parce que, en fait, aujourd'hui, comment savoir quelle est la stratégie thérapeutique la plus adaptée et à quel moment le faire ? Et au final, on en arrive dans des situations où le parcours de soins des patients est extrêmement compliqué. Vous voyez, ça, c'est une étude qui a été réalisée dans l'équipe du professeur Rigoire sur des patients qui sont multi-opérés. Et ça, c'est un petit peu leur parcours de soins. Donc le patient, il débute par une lombalgie simple. Donc là, il va voir son médecin généraliste pour dire qu'il a mal au dos. Et puis le médecin généraliste, il peut éventuellement l'orienter vers le radiologue pour qu'il fasse une imagerie. Il peut éventuellement l'orienter vers le kinésithérapeute. Je suis désolé, Jean-Philippe, il faut absolument que je la rajoute. Ou vers le rhumatologue. Là, vous voyez, vous avez déjà au moins 4 personnes qui doivent être en interaction et qui doivent arriver à se coordonner. Bon, ce patient, ça ne va pas mieux. Et puis finalement, il est orienté vers un chirurgien. Disons que le chirurgien, il doit être aussi en contact avec l'ensemble des personnes qu'ils ont déjà vues. Bon, finalement, ça ne va toujours pas mieux. Et puis, le patient est orienté vers une structure de prise en charge de la douleur, vers un algologue, le médecin de la douleur, comme on appelle. Une personne de plus dans l'équation. Imaginez pour coordonner tout ça. Et puis, ça ne va toujours pas mieux. Et le patient, il arrive à la neurostimulation. Encore pire. Le professeur Rigoire vous reparlera de cette technique après. Tant et si bien que finalement, sur le parcours des patients, dans cette étude-là, on se rend compte qu'entre l'apparition de la lombalgie et la prise en charge de neurostimulation, les patients, ils ont plus de 12 ans, presque 13 ans d'aléas, sans soulagement durable de leur douleur. Il y a une étude qui a été faite où ils ont mis un traceur GPS sur les patients pour voir le nombre de médecins qui étaient consultés au sein d'un hôpital pour essayer de voir un petit peu l'efficience. Et en fait, on se rend compte que, mettons, vous consultez 5 médecins, en fait, ce n'est pas utile d'aller voir les 5, il n'y en a qu'un seul qui sera identifié à la fin. Une chose qui est extrêmement importante, et ça me permet de revenir sur la dimension un peu plus sociologique, c'est qu'il faut dépasser le biologisme. C'est hyper important. Là, je vous ai parlé des mécanismes biologiques. Parce que la première chose, c'est qu'avoir une hernie discale, ça ne veut pas dire être douloureux chronique. Et ça, c'est une étude qui est extrêmement intéressante, en fait, qui est faite chez des patients qui sont absolus, enfin chez des personnes, pour le coup, qui n'ont aucune symptomatologie douloureuse, et puis ils ont fait passer une imagerie. Et en fait, ils se sont rendus compte que chez les personnes, là, c'est la donnée qui est en jaune, je sais, pointeur qui est là, la donnée qui est en jaune, les personnes de 50 ans qui n'ont aucune douleur, il y en avait 80% qui avaient une dégénérescence discale. En fait, il n'y a pas forcément de corrélation entre une symptomatologie douloureuse et une imagerie médicale. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que le premier réflexe des patients, mais c'est parce qu'on les a habitués à faire comme ça, quand ils arrivent en consultation, c'est tout de suite de donner tous les examens médicaux, et de donner toutes les imageries. Mais en fait, la réponse, elle n'est pas tout le temps sur l'imagerie. Et puis, on va en revenir au mot, un mot que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est quand même lourd de sens, c'est le « j'en ai plein le dos ». Et quand j'ai dû travailler un petit peu sur l'origine de cette expression, il y a deux figures mythologiques qui sont tout de suite apparues. La première, c'est le mythe d'Atlas, qui est un titan. Les titans ont perdu la guerre contre les dieux grecs. Et donc Atlas a été condamné par Zeus à porter le poids du monde sur ses épaules. Et un deuxième mythe, peut-être encore plus parlant, c'est le mythe de Sisyphe. Et donc Sisyphe, il était au royaume des morts. Il a réussi à en sortir. Il a déjoué les pièges d'Hadès. Et pour le punir, il a été condamné à hisser au sommet d'une montagne chaque jour un rocher qui retombait. Et j'aimais bien parce qu'il y avait deux interprétations. La première interprétation, qu'on appelle naturaliste, c'est une métaphore du soleil qui se lève. Mais ça, ce n'est pas l'interprétation qui m'intéresse. L'interprétation qui m'intéresse, c'est l'interprétation qui est existentialiste. C'est de dire qu'il n'y a pas de pire châtiment que d'effectuer chaque jour un travail ingrat et pénible physiquement. L'aliénation de l'homme, excusez-moi, je suis sociologue, donc je fais forcément un peu le marxiste, l'aliénation de l'homme. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la problématique, c'est les pénibilités du travail. J'en ai plein le dos. Le rapport au travail à la lombalgie est absolument évident. Et donc ça me permet de vous amener sur une dimension qui est extrêmement importante dans la prise en charge de la douleur, ce sont les facteurs psychologiques. Donc les facteurs psychologiques, ce n'est pas mon domaine, je vais juste vous en présenter quelques-uns. Tout d'abord, vous avez l'anxiété et la dépression. On sait que des personnes qui ont un niveau d'anxiété et de dépression élevé sont plus susceptibles d'avoir des douleurs chroniques ou des douleurs chroniques qui sont de plus grande intensité. On a le stress, et notamment les syndromes de stress post-traumatique. Les personnes qui sont victimes d'abus sexuels, en général, dans la prévalence, est plus importante chez elles. On a la peur du mouvement, qu'on appelle la kinésiophobie. JP, Jean-Philippe pourra aussi très bien vous en parler, mais évidemment, c'est un facteur de chronisation extrêmement important. Et puis, les stratégies d'adaptation qui sont mises en place par les patients. Vous avez des patients qui vont catastrophiser, c'est-à-dire que tout de suite, la douleur va prendre des répercussions et les immobiliser chez eux. Il y a des stratégies, il y a des façons de travailler dessus. Et là, pour arriver sur un peu plus mon domaine, vous avez aussi des facteurs qui sont sociaux. Alors, vous en avez plusieurs. Les premiers, c'est les inégalités sociales de santé. Aujourd'hui, on sait que le niveau d'éducation des personnes, on sait que les revenus des personnes, elles vont être déterminantes sur leur santé. Par exemple, les employés à 35 ans ont une durée de vie inférieure au cadre, uniquement parce que c'est le rapport à la médecine qui sera complètement différent. Deuxième facteur, c'est les inégalités au niveau du travail. Si vous avez un travail qui est enrichissant, si vous avez un management qui est soft, si vous ne faites pas des horaires à répétition et que vous avez un travail qui est adapté, évidemment, il y a des chances que vous alliez mieux et que ça soit le cas pour votre dos. Vous avez les facteurs sociaux à la maison, la qualité du support social. Et je pense que, messieurs, vous pouvez remercier vos femmes parce que c'est extrêmement important dans l'écologie d'un couple et on se rend compte que les femmes prennent bien plus soin de leur mari que l'inverse. Et c'est quelque chose qui va être absolument déterminant. Non, c'est vrai, on pourra en reparler après, mais c'est vraiment important. Bref. Et puis, une quatrième dimension qui fait toujours beaucoup de débats, mais vous avez aussi les facteurs sociaux à la clinique. Et évidemment, l'offre de soins sur un territoire va être complètement déterminante. Les professionnels que vous allez rencontrer, ça va tout changer. Ça, c'est évident. Et pour vous montrer à quel point les facteurs sociaux sont importants dans l'évolution d'une lombalgie, je voudrais vous présenter les résultats d'une étude qu'on vient juste de terminer à Prismatics, qui s'appelle Predibac, qui porte sur 200 patients qui sont atteints de lombo-radiculagie post-opératoire, donc de douleurs du dos et des jambes qui font suite à une intervention. Et notamment cette étude, alors on va faire plein de choses avec, mais moi ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur les facteurs sociodémographiques. Et vous allez voir que sur une population qui a déjà été opérée et qui est douloureuse chronique depuis en moyenne 5,7 ans après l'intervention, généralement les gens souffrent depuis plus de 10 ans, qu'ils ont des caractéristiques sociales qui sont absolument incroyables. Je n'ai pas d'autres mots. La première chose, c'est qu'on voit que dans cette étude, vous avez 66% des patients de cette étude qui ont un niveau d'éducation qui est inférieur au bac. Comparativement à la structure démographique française, c'est 15 points de plus. Donc ça veut dire que les patients qui ont eu une chronicisation de la douleur après intervention, c'est des patients qui ont généralement un niveau d'éducation qui est moins important. Donc il faut bien prendre en compte la force du niveau d'instruction qu'on peut avoir. Deuxième facteur, extrêmement important, eh bien, c'est ce qu'on appelle la profession et catégorie socioprofessionnelle, le métier des gens. Eh bien, on se rend compte que dans cette étude, vous avez 82,5% des patients qui sont originaires des CSP, des catégories socioprofessionnelles, employés et ouvriers. Comparativement à la structure démographique, c'est 32,5 fois de plus. Donc il y a plus de chances d'avoir une lombalgie qui se chronicise si vous venez de ces professions-là. Le troisième facteur, finalement c'est plus un facteur qui montre l'impact des lombalgies, eh ben, c'est que sur une population en âge de travailler, il y a 95,2 jours de travail qui sont manqués. Le nombre de journées travaillées dans une année, c'est 228. C'est quasiment la moitié de jours de travail qui sont manqués. Et comparativement à la structure démographique française, c'est environ 4 fois de plus. Dans le secteur privé, ils ont moins d'arrêts maladie que dans le secteur public. Surprise. Donc vous voyez la force des facteurs sociaux dans ce risque de chronicisation. Et bon, c'est la petite illustration, mais finalement, on voit bien qu'en même temps qu'il y a une évolution de la maladie, eh bien, il y a aussi une précarisation des patients. Et parallèlement, en même temps que les personnes sont précaires, il y a une chronicisation de la douleur, des facteurs qui sont complètement joints. Donc si j'avais une conclusion avant de passer la parole, eh bien, la première serait qu'il faut absolument qu'il y ait une prise en charge qui soit biologique, psychologique et sociale. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que je suis très content de pouvoir participer à cette journée, parce que je trouve que c'est vraiment le mouvement qui est initié, notamment par le professeur Aiguard et toute l'équipe de l'unité Rachis Neurostimulation Handicap, c'est de permettre aux différentes disciplines de dialoguer, tout ça pour l'intérêt du patient, et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.
Bonsoir. Donc moi je suis le docteur Giraudon, rhumatologue à Saint-Benoît, en libéral. Donc je suis très enchanté de vous parler des lombalgies. Et je remercie le professeur Rigouard de m'avoir convié à cette soirée thématique. Désolé, je ne suis pas un grand fan de la communication. Excusez-moi pour les imperfections par avance. Je vais répéter un peu certaines choses qui ont déjà été dites. Déjà, la lombalgie, c'est quoi ? C'est finalement, selon la HAS, une douleur qui est située au niveau de la zone lombaire et qui va se aller jusqu'au niveau du pli fessier. Après, on parlera de soit de douleur crurale ou de sciatique. C'est une douleur qui finalement sera située en dessous de la fesse et qui va irradier dans la jambe. Pour une douleur crurale, en fait, ça concerne surtout les racines L3 et L4. Et ça définit un trajet qui est situé sur la face antérieure de la cuisse. Et puis pour les sciatiques, ça concerne plutôt les racines L5 ou S1. Et cela, ça concerne plutôt des douleurs avec un trajet plutôt situé au niveau de la face externe ou postérieure de la cuisse et du mollet et allant jusqu'au pied. Comme on l'a déjà dit, les lombalgies aiguës, ce sont des douleurs qui sont présentes depuis moins de 6 semaines. Et on parlera de lombalgie chronique quand les douleurs sont présentes depuis plus de 3 mois. Entre les deux, on va parler de douleurs subaiguës. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent, puisque globalement, tout le monde aura une douleur au niveau de son dos dans sa vie. La lombalgie aiguë est donc le deuxième motif de consultation par fréquence auprès du médecin généraliste, et la lombalgie chronique représente à elle seule le huitième motif de consultation. Ce qui est très important et ce qui est surtout le plus important à retenir, c'est qu'une lombalgie aiguë rentrera et sera résolutive dans les moins de 6 semaines à partir de l'apparition des symptômes dans 90% des cas. C'est, je pense, le plus important à retenir. Malgré tout, ça a une répercussion sur le plan social, puisque finalement, une lombalgie sur 5 entraîne un arrêt de travail. 30% de l'ensemble des arrêts de travail d'une durée de plus de 6 mois concerne la lombalgie, donc finalement chronique, ce qui représente finalement que 3% des lombalgies dans sa globalité. Cela représente aussi 20% des accidents du travail, et c'est le troisième motif d'admission en invalidité pour le travail. Quelques rappels d'anatomie simple. Donc la colonne vertébrale est constituée de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, le sacrum et le coccyx. Elle a 2 rôles principaux. Elle est la poutre principale du squelette et elle a un rôle protecteur auprès de la moelle épinière qui est située à l'intérieur de celle-ci via le canal rachidien. Cette colonne vertébrale, elle va être mobilisée et stabilisée par plusieurs structures anatomiques. Les muscles qui vont assurer une stabilité active, les ligaments et le disque avec une stabilité passive. Ce disque va aussi avoir un rôle d'amortisseur des différentes contraintes mécaniques imposées et va s'adapter au mouvement du rachis. Le disque est constitué... Alors le traceur... Le traceur vert, le petit point vert. Donc le disque est composé de deux structures, un noyau et un anneau fibreux. Ce noyau va se mobiliser en fonction des mouvements qu'on va réaliser. Il va aller se reculer en arrière quand on se penche en avant, et à contrario, va s'avancer quand on va se mettre en arrière. En règle générale, on va plutôt se pencher en avant de façon plutôt naturelle, ce qui peut de temps en temps occasionner ce qu'on appelle une hernie discale, qui dans certains cas va entraîner une compression au niveau de la racine nerveuse et peut être responsable de douleurs soit sciatiques ou crurales. Le coupable, on le connaît tous, finalement, c'est Lucie. Elle a décidé de se mettre debout pour regarder au-dessus de la savane pour éviter de se faire mordre par le lion à dents de sabre. Et donc, finalement, on est passé d'une station où on marche à quatre pattes, ou quadrupède, à une station bipède. Et donc, notre colonne vertébrale s'est adaptée progressivement au fil de l'évolution pour subir les contraintes mécaniques liées aussi à la gravité. Ensuite, en règle générale, on fait tous n'importe quoi avec son dos et on va aller plutôt avoir une tendance à se pencher en avant. Et aussi dans les pays occidentalisés, on a aussi une tendance à ne plus faire d'activité physique répétée et régulière. Et donc on va mal se tenir, on va aller chercher, de façon, parce que c'est beaucoup plus simple d'aller chercher un caillou en se penchant en avant que de plier les genoux, ou ainsi de suite. Pour aller chercher les champignons, les boceps et les belles truffes aussi, et ainsi de suite. Et puis au bureau, on se met un peu n'importe comment, et puis on ne parle pas des adolescents derrière leurs ordinateurs. Ce qui, malgré tout, au niveau du disque intervertébral, va représenter finalement une pression importante, puisque plus on va aller se pencher en avant, plus la pression exercée au niveau du disque va être importante et peut représenter jusqu'à plus de 200 kg quand on va aller chercher un caillou, par exemple, ou bien sûr des charges beaucoup plus lourdes. Le rôle du médecin va être finalement, lors de la première consultation pour laquelle il va être vu, c'est de caractériser cette lombalgie. Et donc on va parler de lombalgie commune, ce qui est le cas le plus fréquent, et qui sont surtout sur des origines purement mécaniques, donc des pathologies discales, de l'arthrose, des scolioses. Et on va, et à contrario, il y a des lombalgies qu'on va dire symptomatiques, qui finalement représentent une très 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 faible part des douleurs et qui sont liées à des maladies tumorales, infectieuses ou inflammatoires avec les spondylarthrites ankylosantes ou éventuellement les maladies ostéoporotiques avec les fractures vertébrales. Pour cela, on va rechercher des signes d'alerte qu'on appelle les drapeaux rouges. Ça va être l'âge d'apparition, à quel âge la douleur apparaît chez les moins de 20 ans ou 55 ans, s'il y a un traumatisme important récent ou une chute, une douleur non mécanique, donc généralement c'est défini par une douleur qui réveille la nuit spontanément, sans mouvement, avec une raideur matinale de plus de 30 minutes. Y a-t-il une douleur thoracique associée? Est-ce que les patients ont des traitements par corticoïdes au long cours ou des traitements immunosuppresseurs? Est-ce que les gens se droguent avec des drogues intraveineuses? Est-ce que les gens ont des antécédents de cancer, d'altération de l'état général, de perte de poids, des troubles neurologiques étendus, de la fièvre, de la sueur ou des déformations de la colonne? S'il n'y a aucun de ces critères, on partira plutôt sur une lombalgie commune. Ensuite, pour les lombalgies dites symptomatiques, ce n'est pas parce que j'ai un critère que je vais avoir une lombalgie symptomatique. C'est une association de ces critères qui fera suspecter ces lombalgies symptomatiques. Et si on suspecte une lombalgie symptomatique, on fera plus rapidement, bien sûr, les examens. Si on n'a aucun de ces critères, en l'absence de ces signaux d'alerte, les examens ne sont pas recommandés avant 3 mois d'évolution des symptômes. Et pour rappel, toujours, la lombalgie aiguë rentre toujours dans le premier mois ou les 6 premières semaines des symptômes. L'objectif des examens complémentaires sera surtout de confirmer le diagnostic suspecté et d'écarter en effet les diagnostics différentiels. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux choses qu'on va réaliser. Ça va être une prise de sang pour rechercher éventuellement un syndrome inflammatoire, une inflammation dans le sang, une augmentation du taux de calcium sanguin et éventuellement rechercher une diminution, une augmentation des globules blancs. Dans les lombalgies communes, ces analyses sont strictement normales, d'accord ? Par la suite, on va pouvoir éventuellement réaliser des examens radiologiques. Donc la radiographie dans les lombalgies communes, elle n'est indiquée seulement que pour rechercher des troubles de la statique rachidienne. Bon, là, c'est une ancienne méthode de radiologie des années 40. C'est un peu plus moderne maintenant. Mais c'est uniquement dans ce cadre-là. Et là, on a des radiographies du rachis qui sont normales. En fait, l'HAS recommande désormais, à partir de 3 mois d'évolution des douleurs, de réaliser une IRM qui permettra finalement d'analyser plus finement toutes les structures anatomiques qui composent la colonne vertébrale, avec l'os, le disque, et puis les structures musculaires. Juste pour exemple, on a ici 2 hernies discales. Ici, on a sur des coupes axiales, donc ces découpes axiales, c'est comme on vous découpe comme des tranches de saucisson. Eh bien, on a le disque, le canal lombaire rétréci, qui va être rétréci avec de l'arthrose située à la partie arrière de la colonne vertébrale et puis un disque aussi qui bombe et qui va donner qui rétrécit le canal. Et ici, en coupe, coupe sagittale, donc dans la longueur, on va retrouver un canal lombaire rétréci sur plusieurs, causé par plusieurs facteurs mécaniques. On peut également. Ce qui peut se discuter, c'est de faire un scanner, mais ce scanner, finalement, il n'est fait que s'il y a une contre-indication à la réalisation d'une IRM ou si par manque de disponibilité de l'IRM, parce que des IRM, ça ne court pas les rues donc ça, par rapport au scanner. Et donc, par exemple, même sur Poitiers, les IRM, elles sont soit réalisées à Poitiers même, à Châtellerault, et puis c'est tout. Après, par exemple, à Montmorillon, où il y a l'hôpital de Montmorillon, il y a un scanner, mais il n'y a pas d'IRM pour l'instant. Après, je ne sais pas le futur, mais... Donc les gens qui vont à Montmorillon peuvent bénéficier d'un scanner, mais pas d'IRM. Bref. Le traitement, il y a plusieurs possibilités thérapeutiques, et finalement, on va jouer sur toutes ces associations de traitement pour améliorer les douleurs. Dans la phase aiguë, le repos est recommandé initialement. C'est sûr que si vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas faire ça et avoir mal, c'est difficile de vous dire de bouger tout de suite et de faire du mouvement. Le repos sera quand même le plus bref possible. On peut utiliser des ceintures de maintien lombaire qui permettent de soulager les douleurs, qui vont prévenir aussi les mouvements et permettre une reprise d'activité peut-être plus progressivement. La ceinture lombaire, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais globalement, ça ne démuscle pas les gens et on peut utiliser ceinture lombaire. On va utiliser des traitements médicamenteux avec les antalgiques à adapter en fonction de la situation et de l'évaluation de la douleur. Donc on pourra utiliser le paracétamol, les opioïdes mineurs, majeurs. Souvent, en première, on associe assez facilement des anti-inflammatoires en cure très courte, en vérifiant bien sûr les contre-indications. Et s'il y a des douleurs de type neuropathique, on pourra éventuellement utiliser des traitements à visée un peu anti-épileptique avec la gabapentine et la pregabaline. Il existe des traitements locaux, donc les infiltrations. Il existe plusieurs types d'infiltrations. L'infiltration par voie épidurale ne sera utilisée et uniquement utilisée qu'en cas de douleur qui part dans la jambe, donc de sciatique ou de cruralgie. Il n'est absolument pas recommandé de réaliser d'infiltration au niveau du dos, quand les douleurs sont purement au niveau du dos, par cette voie. Quand les gens ont éventuellement des douleurs au niveau du dos liées à de l'arthrose qui est située sur la partie postérieure de la colonne vertébrale, on peut éventuellement réaliser des infiltrations articulaires postérieures. Le principe des infiltrations n'est uniquement, en règle générale, pour faire passer un cap douloureux. D'accord, ça ne va pas solutionner le problème. Ensuite, localement, et plus à visée antalgique sur le muscle, on peut utiliser la mésothérapie ou éventuellement l'acupuncture. La kinésithérapie a toute son importance. Il y a différents types de techniques, dont la technique McKenzie qui sera développée juste après moi. Les techniques mésières. Les objectifs sont d'éviter la récidive et de reprendre une activité le plus rapidement possible. La chiropraxie ou l'ostéopathie ont également leur place, surtout dans les douleurs plutôt aiguës. Ensuite, on peut utiliser des techniques aussi moins invasives comme les TENS, donc c'est des électrostimulations qui permettent de moduler la douleur en envoyant des petites décharges électriques. Le traitement chirurgical sera développé par la suite, mais surtout, en règle générale, dans les lombalgies communes, la nécessité d'une chirurgie est très limitée et très exceptionnelle. et on va plutôt envisager une chirurgie éventuellement en cas de lombosciatique ou de lombocruralgie après avoir utilisé un traitement médical adapté et après une certaine durée d'évolution ou en cas de signe de gravité. Ce qui est très important quand on a un épisode de douleur lombaire, c'est finalement de réapprendre à utiliser son dos en réapprenant à utiliser les règles d'hygiène lombaire, c'est-à-dire comment je me lève de mon lit, comment je vais m'asseoir, comment je me mets dans ma voiture, comment je me mets derrière mon poste de travail, quel qu'il soit, derrière mon bureau. C'est aussi de retravailler tout ce qui est des exercices de posture et d'étirement à faire régulièrement, et surtout à se remuscler en pratiquant idéalement une activité physique régulière. Toute activité sportive est possible. Le principal étant de se faire plaisir, parce qu'on ne va pas faire quelque chose qui nous rechigne. Au bout de 15, si par exemple vous détestez nager, ça ne sert à rien d'aller nager, parce qu'au bout de 15 jours, vous allez arrêter, et il vaut mieux faire quelque chose qui vous fasse plaisir. Mais tout est possible, il n'y a aucune contre-indication, et globalement vous pouvez faire du yoga, de la natation, et même de la boxe. Ce qui est très important et ce qui permet aussi de regrouper ça, parce que des fois on n'a pas forcément accès à comment je dois m'asseoir ou ainsi de suite. Des fois c'est les kinés qui vont le faire, le médecin va le faire, mais finalement le médecin, que ce soit le rhumatologue, le généraliste ou le chirurgien, va dire vous faites ça et puis au revoir, c'est fini. Et donc finalement l'assurance maladie a mis en place depuis 2 à 3 ans, en même temps que finalement les campagnes dont on en beaucoup parlé depuis, une application qui est gratuite, qui est très bien faite sur tout ce qui est gestes et postures et étirements avec des programmes où on peut planifier des programmes. Et je pense que ça, c'est vraiment un très bon outil qui a été développé par l'assurance maladie puisque finalement, ça concerne tout le monde. Donc finalement, les lombalgies communes sont des choses très fréquentes, bénignes et résolutives rapidement. Ce qui est important, c'est finalement de changer ses habitudes et de se muscler de façon plutôt intensive, mais quand même pas aussi importante que ce monsieur. Je vous remercie.
Alors, bonsoir à tous, et merci d'être venus aussi nombreux pour venir nous écouter. Merci à l'Espace Mendès France pour l'organisation, et merci au CHU de Poitiers et au professeur Aiguard pour m'avoir gentiment invité. Donc alors moi je vais vous parler de l'approche plus kinésithérapique et orientée McKenzie de la lombalgie. Et donc en introduction, on va regarder juste un article d'épidémiologie, promis. Et en fait dans cet article-là, en fait, c'est une revue américaine qui a lancé une enquête avec l'OMS qui reproduisent tous les 10 à 15 ans, et en fait, ils essaient de mesurer l'impact des 300 et quelques affections les plus communes à l'être humain sur la mortalité, la morbidité, sur la qualité de vie, sur l'incapacité, etc., etc. Et au rang de l'incapacité, donc du handicap, la première cause d'incapacité mondiale depuis les années 90, c'est la lombalgie associée avec les douleurs de rachis. Ils mettent dans l'eau, ils mettent les lombalgies et les cervicalgies. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Parce qu'il y a pas mal d'autres choses qui peuvent générer beaucoup de handicap, mais la lombalgie, ça arrive devant et assez loin. Et le truc, c'est que l'écart se creuse avec les autres pathologies. Donc, ce qui est assez surprenant. Ce qui peut amener en fait certains systèmes de santé à promouvoir certains traitements ou certaines politiques afin de diminuer cette incapacité, cet handicap. Et donc en fait, on a la Sécurité sociale qui a lancé, en partenariat avec la HS, toute une campagne de publicité. Donc Nicolas en a parlé, le docteur Giraudon en a parlé également. Et donc en fait, qui tourne autour du mouvement. Et l'idée est que si on a mal au dos, c'est qu'on est trop sédentaire. Alors moi, en tant qu'expert du mouvement, cette campagne, elle m'a laissé ambivalente. Le premier point, c'est que le premier effet que ça m'a fait, c'est que c'était plutôt une très bonne idée de promouvoir le mouvement chez les gens et de les faire bouger. Parce que oui, effectivement, on est bien souvent trop sédentaire et beaucoup de patients lombalgiques ne bougent pas assez. Et c'est sans doute une des raisons qui fait qu'ils ont mal au dos. Mais, il y a toujours un mais, quand on... excusez-moi. Et donc, ça a fait évoluer, c'est en train de faire évoluer mon métier d'une profession de masseur, kinésithérapeute, mais plutôt masseur, à une profession qui va être plutôt dynamique et qui va plutôt être orientée vers le côté prof de sport. Le truc, c'est que moi, en tant qu'expert du mouvement, je me pose des questions également et je me demande si, effectivement, il suffit juste de faire bouger les dents, il suffit juste de faire bouger les gens, ou est-ce qu'il y a certaines manières de les faire bouger ? Ce qui a été un petit peu évoqué déjà dans les communications précédentes. Et donc, est-ce qu'il existe des mouvements meilleurs que d'autres ? Et si oui, lesquels ? Et surtout, pour qui et à quel moment ? Parce que ce ne sera pas forcément pour tout le monde la même chose. Et là-dessus, si on regarde la prévalence des douleurs de dos chez les sportifs, normalement, si c'était qu'une question de mouvement et de muscles, normalement, on ne devrait pas en avoir. Et en fait, le truc, c'est qu'on en trouve 18 à 65%, ce qui est légèrement inférieur à ce qu'on trouve dans la population générale, mais ce qui reste quand même assez élevé. Et on a tous en tête des sportifs célèbres qui se sont fait mal au dos et qui en ont, passez-moi le mot, bien chié. Moi, j'ai osé. Par exemple, vous avez Tiger Woods qui a eu 3 ou 4 opérations du rachis et qui a bien failli finir sa carrière de manière pas terrible. En France, on a eu Franck Ribéry qui a loupé la Coupe du Monde en 2014 parce qu'il est mal au dos. Et ça avait fait à l'époque un peu le drame national, quoi. Donc en fait, ça a l'air d'être un poil plus complexe que simplement bouger ou simplement bouger beaucoup. Et là où j'étais ambivalent, c'est que ça laisse aussi l'impression que les gens qui ont mal au dos, c'est juste des feignants qui ne bougent pas assez. Alors, clairement, il y a des patients qui en ont besoin de bouger, mais il y en a d'autres, ce sera un petit peu différent. Et on va voir ça juste après. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ? Donc, moi, dans l'approche que j'utilise, en fait, il y a, comme le professeur Aiguard a présenté au début, il y a toute une phase d'évaluation où, en fait, on va poser pas mal de questions et on va faire différents mouvements avec le patient afin de déterminer s'il y a des meilleures manières de le faire bouger que d'autres, en tout cas chez ce patient-là. Et on va être à la recherche d'un signe particulier qui va être très prédicteur de ce qu'on va pouvoir faire. C'est le signe de centralisation. Nico Naidic et le docteur Giraudon ont présenté tout à l'heure des douleurs qui peuvent partir du dos et descendre dans la jambe. Et typiquement, nous, ce qu'on va chercher à faire, dans un premier temps, c'est voir s'il n'y en a pas des mouvements qui font remonter cette douleur dans la jambe, voire la faire remonter de la fesse au dos, voire la faire disparaître totalement. Et à l'inverse, on essaie d'identifier les mouvements qui vont provoquer le schéma inverse. C'est-à-dire, on part de la douleur du dos, et si on fait les mouvements, bing, ça se met à descendre dans la jambe. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont mal au dos ? Je pense oui. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà senti ce truc-là ? C'est-à-dire que, par exemple, vous avez mal au dos et vous faites certains mouvements et vous sentez que plus vous poussez, plus vous forcez, ça commence à partir sur le côté, ça se met à descendre dans la fesse, ça se met à descendre dans la jambe, voire, dans d'autres cas, l'inverse en fait. La douleur, elle a tendance à remonter dans la cuisse, dans la fesse, etc. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu ça ou pas, lorsqu'ils font des mouvements ? Ouais. Ouais, c'est assez fréquent. Et bien nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer de trouver ça de par notre examen. Et en fait, comment ça se passe ? C'est que le patient, je vais le faire bouger et je vais regarder quel effet ça a sur la douleur. Par exemple, là, ce patient-là, on va lui faire faire ce qu'on appellera des extensions et on voit que plus il fait des extensions, plus la douleur remonte dans la jambe. Voir si on pousse vraiment fort, la douleur disparaît complètement. À l'inverse, si je lui fais faire plutôt des mouvements de flexion, en fait, ce patient-là, la douleur, elle va réapparaître dans la jambe et progressivement, elle va se remettre à descendre et elle va réapparaître. Enfin, elle va empirer. Donc, grosso modo, ce patient-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, dans mon traitement, en tout cas, dans la première phase, je vais lui dire de plutôt faire des mouvements d'extension, de limiter les mouvements de flexion, en tout cas dans un premier temps du traitement. Et après, on va voir la suite après. Et donc là, je vais vous présenter deux, trois dessins de douleur que des patients au cabinet m'ont fait. Donc ça, c'est une application qui a été développée par l'équipe du professeur Rigoire qui permet aux patients de dessiner ses douleurs sur le bonhomme. Et on entre la taille et le poids du patient et ça nous permet de calculer les surfaces de douleur en centimètres carrés en fonction des intensités de douleur. Et ce qu'on voit, ça, c'était un patient qui venait. Alors, moi, je travaille dans le 11e à Paris, donc j'ai vraiment deux populations de patients. J'ai les patients qui me sont envoyés par les chirurgiens qui ne sont pas forcément du quartier, et là, j'ai un peu tout. Ou sinon, le 11e à Paris, c'est un peu Boboland. Donc, en fait, j'ai beaucoup de gens qui font du sport, qui mangent sainement, qui font du yoga, qui sont... Enfin, c'est pas monsieur tout le monde. Et en fait, ce gars-là, c'était un gars qui courait 3 marathons par an et il se tapait une espèce de sciatique, une douleur de jambe qui durait depuis 3 à 4 mois. Et quand il allait courir, il était mieux, mais il se tapait sa douleur et quand il allait s'occuper de sa fille, il avait mal et il était plié en deux pendant 3 jours derrière. Et donc moi, quand je le vois, donc là, c'est le dessin de douleur qu'il m'a fait au tout début de la séance. Donc on voit que la douleur, elle part du dos, elle descend dans la jambe. Puis, je lui fais faire les mouvements d'extension, comme je vous ai montré là sur la petite animation qu'il y avait précédemment. Et donc, la douleur, elle remonte. Et surtout, c'est qu'on voit que la surface en centimètres carrés qu'il y avait entre ici et ici, ben, on l'a divisé quasiment par 4. Puis, j'étais un peu taquin avec lui. Je lui fais faire des flexions. Et après les flexions, eh ben, on repasse à peu près au même schéma de douleur qu'on avait au début de la séance. Puis, je lui refais faire les extensions. Et je lui ai refait remonter la douleur dans la jambe. Et ça, j'aurais pu le faire 5, 6, 10 fois. Ça aurait été tout le temps la même chose chez ce patient-là. Et donc, chez lui, on a ce qu'on appelle un schéma de préférence directionnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter les traitements, enfin les mouvements qu'on va lui faire faire en fonction de la direction des mouvements. Et lui, je vais plutôt favoriser des stratégies en extension. S'il m'avait fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'était amélioré avec de la flexion, eh ben lui, j'aurais fait faire beaucoup de flexion. J'aurais fait faire des exercices en flexion, des abdos, enfin tout un tas de trucs qui vont le faire aller en avant. OK ? Et ce schéma-là, on l'observe à peu près chez entre un patient sur deux à deux patients sur trois. C'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça, mais qui n'est pas non plus pour tous les patients. C'est pour ça qu'il y a toute une phase de test où il faut qu'on détermine si oui ou non le patient rentre dans cette catégorie-là. Et ce schéma-là, on l'observe aussi, pas forcément pour le dos, je fais une petite digression, mais ça fonctionne aussi sur les cervicales, où là, vous avez un patient qui vient lors de la première séance, et ça, c'était un patient pareil, qui vient du 11e, qui fait du sport, qui est actif, etc., et qui me dessinait ça, et je lui fais passer un score de qualité de vie qui donne un score qui est compris entre 0 et 1. Plus on est proche de 0, plus la qualité de vie n'est pas terrible. Et ce patient-là m'a donné un score de qualité de vie à 0,36, ce qui fait un score qui n'est vraiment pas terrible, qui commence à s'approcher des maladies assez graves et qui traînent pas mal. Alors malgré le fait qu'il soit actif, malgré le fait qu'il soit en bonne santé, etc., il avait quand même une qualité de vie toute pourrie parce qu'il avait de grosses douleurs qui le gênaient vraiment dans ses activités. Et pour le coup, à la fin de la séance 1, entre la séance 1 et la séance 2, on voit qu'il n'a plus de douleur de bras, que la douleur se recentre autour de l'omoplate, et on continue. Séance 2, hop, la douleur elle a continué à revenir de cette manière-là, et séance 3, on n'a quasiment plus de douleur avec une surface qui a été divisée par quasiment 5 entre la première séance et la troisième séance. Et donc ça, c'est chouette quand on voit ça. Et donc comment est-ce que je vais traiter des patients comme ça quand j'observe ce genre de choses-là? En fait, je vais passer par 4 étapes. En gros, l'étape 1 et 2, elles se font en même temps. Et c'est assez logique. Si le patient il s'améliore dans un sens et qu'il s'aggrave dans l'autre, eh bien, en gros, je vais lui dire de faire des mouvements dans le sens qu'il améliore et je vais lui dire de limiter les mouvements à l'opposé, ce qui est relativement logique. Et en gros, je lui donne, entre guillemets, le mode d'emploi de son dos, en tout cas, ou le mode d'emploi de son problème, en l'orientant vers les activités qui vont favoriser ses directions. Puis, va arriver une troisième phase, qui est la phase de récupération. Parce que c'est sûr que le patient, je ne vais pas lui demander toute sa vie de faire des mouvements vers l'arrière et de ne plus faire de mouvements vers l'avant. Là, on va avoir un problème. Ou inversement. Parce que le dos, en fait, on a les mains devant, les yeux devant, on est fait pour se pencher en avant. Et c'est quand même bien pratique de pouvoir se pencher en avant. Donc, il y aura une phase où on va réintroduire les autres mouvements, en fait, ceux qu'on a limités au début. Et ça va arriver au moment où le patient n'a plus cette sensibilité mécanique. C'est-à-dire qu'à un moment, il va progresser vachement. Il y a un moment, il va se mettre à stagner et on va lui refaire faire les mouvements qui posaient problème et bah, ça ne va plus poser problème. En fait, il ne va plus avoir ce phénomène de périphérisation. Et là, on peut passer à la phase où là, on va pouvoir le faire bouger dans tous les sens et lui faire faire du sport, de l'activité physique, du renforcement, enfin tout ce qu'on peut imaginer et le faire bouger de manière totale. Et enfin, il y a une dernière phase qui est la phase de prophylaxie ou de prévention parce que on a parlé de lombalgie aiguë, de lombalgie chronique. Il y a un troisième terme qu'on pourrait introduire, c'est le côté récurrent de la lombalgie. En fonction des études, on trouve entre 35 et 70% de patients qui rechutent dans l'année lorsqu'ils ont fait un premier épisode, en fonction des définitions qu'on a. Et donc, en fait, la lombalgie, c'est un problème qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part. Et donc, c'est un problème qu'il va falloir gérer au long cours. Un peu à la manière de l'asthme, en fait, parce que l'asthme, qu'est-ce qui se passe? On a des crises ponctuelles qui viennent avec un petit fond qui est là, mais on a des crises régulières. Et le traitement de l'asthme, à l'heure actuelle, c'est quoi? En dehors des phases aiguës, c'est d'éduquer le patient, lui apprendre bah, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour prévenir les crises, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse s'il y a un début de crise qui commence à arriver, pour ne pas que ça dégénère. Et donc là, dans cette stratégie-là, c'est ce qu'on essaie de faire. On l'explique au patient, si vous commencez à sentir que ça revient, qu'est-ce que vous faites? Hop, on reprend ça, et vous n'avez plus besoin de moi, vous venez plus me voir, vous le réglez tout seul. Et si ça revient et que vous n'arrivez pas à le contrôler, c'est là où vous revenez me voir. Okay ? Et donc ça, on a quelques petites données qui poussent un peu dans ce sens-là. Ça, c'était une étude où, en fait, on a pris que des patients qui avaient cette sensibilité directionnelle, ce qu'on appelle la préférence directionnelle, et on les a répartis dans trois groupes d'exercices. Et on a observé leur évolution à 15 jours. Il y a des patients à qui on a donné le bon exercice, il y a des patients à qui on a donné l'exercice opposé, et il y a des patients à qui on a donné des exercices non directionnels, c'est-à-dire qu'on lui disait tu bouges dans tous les sens, on leur a donné un programme d'exercice qui leur faisait qui n'était pas directionnel. Et pour le coup, quand on observe les résultats, c'est que les patients, ça c'est l'auto-évaluation des patients pour leur état, et bien les patients qui ont eu ces exercices directionnels ont bien mieux évolué. Un peu plus de 45% disent qu'ils ont aboli leurs problèmes en 15 jours et 95% disent qu'ils sont vachement mieux qu'au début. Par rapport aux autres exercices, on est quand même supérieur. Donc ça, c'était le côté chouette. Mais encore une fois, c'est des patients qui ont été sélectionnés. On a pris les patients qui avaient cette sensibilité directionnelle. Ça ne fonctionne pas si on ne l'a pas, évidemment. La phase de récupération de fonction, c'est là où on réintroduit tous les mouvements, notamment les mouvements de flexion. Pourquoi ? Et ça a été très bien introduit par Nicolas Naidic. C'est qu'il y a des facteurs psychologiques qui vont intervenir dans l'ombalgie. Et un des facteurs qui est prédominant, c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Et la kinésiophobie, c'est quoi ? C'est la peur du mouvement. Et quand on se fait mal en se penchant en avant, quand on s'est fait mal 4 fois en se penchant en avant, il y a un moment où se pencher en avant, on n'a plus envie d'y aller. Mais ça va participer au problème. Pourquoi ? Les anglo-saxons, ils ont une super phrase, c'est « use it or lose it ». C'est-à-dire, si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Et grosso modo, si on ne se penche pas en avant, on va progressivement perdre la capacité à se pencher en avant. Et comme les yeux sont devant, les mains sont devant, immanquablement, un jour ou l'autre, on va devoir le faire. Mais si le dos n'est pas préparé à le faire, on se refait mal, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Alors, plutôt que d'être dans une stratégie d'évitement, nous, on va choisir une stratégie d'exposition, en fait. Mais sauf qu'on va le faire de manière contrôlée. C'est-à-dire que le patient, il ne s'agit pas de lui faire faire 400 flexions dans la journée, comme ça, dès qu'il a plus mal. Non, on va réintroduire les éléments progressivement et on va lui redonner une capacité à bouger en flexion normalement. Alors après, il ne s'agit pas de ramasser 40 kilos comme ça, ce n'est pas ça que je dis. Mais juste le fait de pouvoir se pencher en avant, ça, c'est un truc que normalement tout le monde peut faire. Et ce n'est pas dangereux pour le dos. Donc, c'est ce qu'on essaie de... On essaie de ramener le patient à cet état-là. Et donc, cette idée de choisir des bons mouvements, c'est valable qu'un temps. Et après, tous les mouvements seront bons. Et enfin, et c'est là où je vais rejoindre ce que disait le docteur Giraudon, c'est que, oui, il faut faire du sport. L'activité physique, elle est excellente. Et dans la prophylaxie, elle est même, on va dire, un peu capitale, puisque maintenant, on sait que l'activité physique a tendance à diminuer le taux de rechute et à diminuer le risque de chronicisation. Donc, en fait, là, nous, quand les patients ils arrivent dans cette phase-là, où on a réglé ce problème directionnel, là, pour le coup, on le relance dans tous les sports, et sans exception. Et il y a des sports qui ont mauvaise presse et mauvaise image, comme la course à pied, par exemple. Pourquoi c'est une mauvaise image ? Parce qu'on imagine qu'avec tous les chocs qu'on fait, on est en train de tasser les disques, et que c'est ça qui va détruire les disques. Eh bien, manque de peau, c'est l'inverse. Vous avez cette étude qui a été publiée dans Nature, qui est un très gros journal, qui a suivi 3 groupes de sujets asymptomatiques, donc des gens qui n'ont pas mal au dos. Et il y en a un groupe qui ne faisait rien, un groupe qui courait entre 20 et 40 km par semaine, et un groupe qui courait plus de 50 km par semaine. 50 km par semaine, pour les coureurs, ça commence à envoyer. Hein, c'est des gars qui courent beaucoup. Hein. Et en fait, on leur a fait passer un IRM à ces gens-là, un IRM un peu technique, qui permettait de voir la hauteur du disque et l'hydratation du disque, en fait. Donc ces deux éléments sont des éléments pour savoir si le disque il est jeune et plus ou moins en bonne santé, s'il n'a pas des signes de dégénérescence. Et les disques qui avaient les meilleures qualités, en fait, devinez lesquels c'était ? C'était ceux qui couraient 50 bornes par semaine. Mieux que ceux qui couraient 40 bornes et beaucoup mieux que les sédentaires. Donc en fait, ça veut dire que l'activité physique est bonne et que le disque il est capable de s'adapter, en fait. Quand on dit qu'on a un disque qui est dégénéré ou autre, il faudrait même... L'idée, c'est pas forcément, enfin, le meilleur traitement, c'est pas forcément le laisser au repos, c'est il faudrait le solliciter. Okay ? Et donc, c'est là où on peut aller dans toutes les activités possibles, imaginables. Et comme le docteur Giraudon l'a dit, il faut prendre les activités qui vous plaisent, en fait, parce que c'est ça qui permet de garder dans le temps. Et voilà, je fais juste une petite pub pour mon association, qui est l'association des praticiens McKenzie. Vous trouverez la petite documentation si vous voulez voir d'autres choses. Il y a des vidéos sympas. Celle-là, elle est très sympa de vidéo. Et donc, ça s'appelle l'AFMCK, l'Association française McKenzie. Merci.
Merci beaucoup, Jean-Philippe. Moi, ce que j'aime vraiment, je trouve que c'est une révolution dans la kinésithérapie, ce que Jean-Philippe est en train de vous présenter, parce qu'on a plusieurs messages clés. Déjà, il faut faire bouger les gens. Ensuite, votre préférence directionnelle, à vous, madame, ne sera pas la même qu'à la voisine. Et c'est important d'avoir des professionnels motivés pour l'identifier. Ils ne vous touchent pas, ils vous regardent pendant 45 minutes. On est très loin d'un but lucratif, on est centré sur votre intérêt et on regarde ce qui peut vous faire du bien. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière... Bah, le but, c'est qu'on s'autonomise soi-même à la maison pour pouvoir s'affranchir justement du professionnel de santé débordé qui nous pose tant de problèmes au niveau de l'accès. La dernière chose qui est importante, le message clé aussi de Jean-Philippe, c'est vous avez vu, ça y est, il part dans des outils de mesure qui vous permettent de regarder de manière objective comment vous progressez. Et ça, dans la douleur, c'est vachement important parce que la douleur, ça reste une sensation subjective. Qu'est-ce qui fait que quand vous preniez une tape dans la cour de récréation quand vous étiez petit, vous pleuriez ou vous étiez le rebelle qui n'avait jamais mal ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fonction des événements de la vie, un coup de marteau ou une étagère sur votre orteil, ça va déclencher des douleurs atroces pendant 3 jours ou ça va être juste un détail insignifiant ? Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des outils qui nous permettent de marquer de manière objective ce qu'on fait quand on évalue cette sensation subjective qu'est la douleur. Parce que c'est la base de notre analyse. Et c'est, je trouve ça magnifique que Jean-Philippe puisse s'approprier un des outils qu'on a développés pour justement essayer de vous le démontrer à vous ce soir. Voilà, dernier topo. Ça va ? Vous n'êtes pas trop crevé là ? Vous voulez que Jean-Philippe nous propose un petit exercice pour nous détendre tranquillement ? Tout le monde à plat ventre, en train de faire des pompes en extension là, pendant 5 minutes ? On a presque fini. Hein. C'était important pour qu'on finisse le tour de panorama, qu'on arrive à l'option de dernier recours, comme j'ai appelé, qui est la chirurgie. Alors la chirurgie, il y a plein de notions contradictoires par rapport à ça. Pour certains, c'est le geste qui va leur sauver ou qui leur a sauvé la vie, et on en est très fiers. Pour d'autres, c'est une catastrophe. C'est des gens qui disent qu'ils se sont fait mutiler. On a l'impression que la chirurgie peut être sacralisée, que la chirurgie peut être inutile, que la chirurgie peut être abusive, que la chirurgie peut être une porte de sortie importante. Je vais essayer de vous montrer que c'est quelque chose qu'on peut essayer d'évaluer là encore de manière très rationnelle et que la clé... c'est de faire confiance à une équipe, comme demain vous pouvez faire confiance à un garagiste quand vous lui amenez la voiture et que vous êtes sûr effectivement que il va essayer de faire quelque chose de bien dans l'intérêt de la voiture et dans le vôtre. Et je crois que c'est vraiment très important, ça vous paraît peut-être très trivial ce que je dis, mais l'éthique avec laquelle on essaie de travailler, pour moi elle est déterminante, et pour ça il faut se demander quels sont les mécanismes et les moteurs qui habitent le thérapeute qui est face à moi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche au fond ? M'aider, s'aider, être connu, être glorieux, être dans CHU Magazine, faire des conférences, est-ce que c'est s'occuper bien des patients, rentrer le soir, être content de ce qu'on fait. C'est très important parce que ça nous renvoie à la notion individuelle qu'on a tous, qui est simplement le travail bien fait pour rendre service à l'autre. Et c'est cette éthique-là qu'il faut construire si on veut prendre les bonnes décisions. Alors, ça a été bien balayé ce soir. C'est très important de faire la différence entre quelque chose d'aigu qui va rentrer dans l'ordre, globalement, et quelque chose de chronique avec des facteurs psychosociaux qui peuvent être très lourds cet après-midi. La jeune femme qui me dit « ça va beaucoup mieux depuis que cet été, j'ai pu virer mon mari qui était toxique, virer les soins que j'avais tous les jours parce que mon père était alcoolique et depuis que je suis petite, je subis ça et je m'en sortais pas. Et il continuait à effectivement se rendre dépendant de moi et je m'occupais de lui, j'en pouvais plus, c'était mes dernières forces, j'en avais plein le dos. Et depuis que j'ai réussi à me couper de ça et à me couper du lien, et ça va beaucoup mieux. » Et puis ça y est, j'ai trouvé mon envol, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. Et puis j'ai changé ma façon de faire. Avant, je me levais à 10h30 le matin, je faisais la grasse mat, puis mes journées ressemblaient à rien. Maintenant, j'ai réveillé à 8h, j'ai changé mon alimentation, j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Croyez-moi ou pas, il y avait notre interne, le docteur Boulou, qui est au fond de la salle, là, effectivement, avec moi en consultation. On a une patiente qui est arrivée avec sa bouteille de Pulco, ce qui a moins de sucre, et qui a changé complètement de vie parce qu'elle s'est prise en main. Pas parce qu'on s'en est occupé chirurgicalement, parce qu'elle s'est prise en main. Parce qu'elle a réglé les problèmes qu'elle avait à régler dans sa vie. Très important, cette influence des facteurs psychosociaux. Non seulement ça conditionne l'avenir des patients, quand on est en dernier recours, qui se sont fait opérer 5 fois, 2 fois à Angers, 1 fois à Bordeaux, 1 fois à Paris, et qui viennent, et que la situation est quasiment désespérée, et puis qu'ils arrivent, comme cet après-midi encore, avec quelqu'un qui dit « Je vous préviens, hein, là vous êtes le dernier espoir, donc il y a intérêt à ce qu'on trouve une solution, parce que sinon, ça va mal se passer. Hein. » Et un patient qui vous dit ça, ça nous fait rire un peu, mais l'été dernier, on a quelqu'un qui s'est suicidé. Parce qu'on n'a pas pris en charge sa douleur, parce qu'on était impuissant face à ça. Donc, c'est des choses qui doivent conditionner non seulement notre analyse à la fin du parcours du patient, et vous avez vu à quel point c'est compliqué, et je vais revenir sur ces outils objectifs qui nous permettent de simplifier l'équation compliquée pour vous et pour nous, pour prendre la bonne décision. Mais dès le début, dès la première indication chirurgicale, dès la première fois qu'on va prendre la décision de rentrer de façon irréversible dans le corps d'un patient, parce que c'est bien ça le métier d'un chirurgien, c'est rentrer dans le corps d'un patient, il faut être sûr qu'on a balayé tous ces facteurs psychosociaux qui étaient présents chez cette patiente. L'alcoolisme chronique du père, les violences conjugales, etc. Dès la première opération du dos. Et ça, il faut l'analyser dès le début. Et ça, ça va conditionner le résultat chirurgical. Parce qu'un patient aide-soignant qui est en arrêt de travail et qui est en procès contre l'employeur parce qu'effectivement, il y a un litige sur la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, il ne va pas du tout s'en sortir comme quelqu'un qui est en auto-entreprise, qui a son projet de réinsertion professionnelle qui est prêt et qui dit « moi, j'ai compris que je ne pourrais plus, en tant qu'ambulancier et en tant que patron, soulever les malades et les amener à l'hôpital, mais là, je vais mettre à la facturation, je vais gérer le planning et je vais m'en sortir différemment, tout est prévu. » Donc, vous m'opérez et après, je rebondis. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même patient. Les ressources qu'on a en soi, elles font que face à la maladie, on réagit de façon totalement différente. Comme ces gens qui ont le sida, qui vont réussir à le contrôler ou pas. Et c'est des mécanismes psychosociaux qui sont à l'origine de la reprise en main qu'on peut avoir sur son corps ou sur sa maladie. C'est très intéressant à étudier. L'autre chose, et elle dépend beaucoup moins de nous, elle dépend de Dame Nature, et Dame Nature est dure, et la vie est dure. Et les patients qu'on voit tous les jours, ils ont des histoires de vie très compliquées. Pour les raisons que je viens d'évoquer, et aussi parce que il y a cette différence fondamentale, comme Nicolas a essayé de vous la traduire tout à l'heure, entre la nociception, la douleur nociceptive. C'est une douleur, c'est le coup de marteau quand on bricole le week-end. On vient stimuler de façon désagréable un système nerveux qui est intact, qui fonctionne bien, qui a pour mission de nous alerter du danger pour qu'on s'en protège. Quelqu'un qui naît sans ses récepteurs à la douleur, vous connaissez sa durée de vie moyenne, un bébé qui naît sans récepteur à la douleur, il y a une maladie très rare génétique où on a une agénésie des récepteurs à la douleur. On survit 3 semaines. Parce que la douleur est là pour nous dire « retire ta main de la plaque qui brûle, fais attention, ça fait mal ». Et quand on est paraplégique, attention, bouge toutes les heures parce que tu ne sens pas que ton bassin est en train d'appuyer très fort sur ton siège et tu vas avoir une nécrose de la peau si tu ne fais pas attention. Quelqu'un qui est privé de la sensation douloureuse, de ce signal d'alarme, va avoir des soucis et ne va plus se protéger du danger. Donc le système nociceptif, il est bénéfique dans l'histoire de notre vie, c'est ce qui nous a permis d'éviter le danger, mais effectivement, il est maléfique quand on a cette sensation désagréable du coup de marteau ou la forte migraine, la tête à se taper contre les murs. Mais cette migraine, elle va finir par passer. Un doliprane, un antimigraineux, et ça finit par passer la migraine. Par définition, une migraine passe dans les 24 heures qui suivent son apparition. C'est une douleur aiguë. Et pour vous faire comprendre la différence, la douleur neuropathique, c'est celle où il y a le nerf d'abîmé, le nerf qui a été écrasé, le nerf qui a été coupé. La moelle épinière de ce jeune vice-champion du monde il y a 6 mois, il y avait des affiches partout de lui dans le monde entier. Il était vice-champion du monde de sidecar, poster comme ça avec la moto de travers, sponsorisée par Red Bull, la maison payée, la vie parfaite, la superbe femme. Et aujourd'hui, il est en train de trembler quand il essaie de passer d'une position couchée à son fauteuil roulant. Et c'est fini pour lui. Et cet après-midi, il nous disait avec le docteur Bouloud, « Ma vie, dans un fauteuil, je peux cheminer en tant que grand sportif pour l'assumer. » Mais pas avec ces douleurs de dos. Pas avec ces douleurs de dos. Réglez une chose, ne me faites pas marcher, mais réglez ma douleur de dos. Et là, il faut avoir une équipe derrière soi. Parce que tout l'enjeu, ça va être, est-ce que cette douleur, c'est un problème mécanique et c'est sa colonne qui ne se consolide pas ? Et c'est pour ça que bientôt, on va en discuter avec les collègues chirurgiens du rachis que je vais vous présenter. Ou est-ce que sa douleur, c'est sa moelle qui a été coupée et qui est une douleur neuropathique qu'il faut soigner avec d'autres thérapies sans plus jamais prétendre soigner la cause, mais en traiter les conséquences sur un versant palliatif. Et cette histoire, elle est très importante parce qu'elle nous montre à quel point le fait, effectivement, d'avoir un système nerveux d'abord bien, puis ensuite une maladie inflammatoire avec des signes qui persistent, comme une spondylarthrite ankylosante, peut-être certains ont entendu parler de ça, on avait un patient cet après-midi qui avait ça. C'est une maladie où il y a une inflammation persistante de toute votre colonne qui va développer beaucoup d'os et toute la vie, vous allez commencer à avoir un état inflammatoire chronique. Et cet état inflammatoire chronique, si vous le laissez persister, que vous laissez les signes persister, tout comme une compression d'un nerf, eh bien, à la fin, vous avez le nerf qui se dénature et qui devient malade par lui-même et qui va bombarder le cerveau tout au long de votre vie restante, indépendamment du stimulus douloureux. Vous êtes passé de la nociception à la douleur neuropathique. Alors nous, notre boulot de chirurgien, ça va être de faire le tri. Et heureusement, il y a quand même des solutions chirurgicales qui peuvent vous changer la vie. Et on est là pour essayer de vous aider en prenant les bonnes décisions et parfois en vous opérant. Et pour la douleur mécanique, mon premier chapitre, la douleur mécanique, c'est effectivement du coup de marteau qui vient écraser un nerf sciatique par une hernie discale, un gros pugnac qui vient appuyer, écrabouiller la racine dans la colonne vertébrale. Et bien effectivement, on va bien entendu laisser toute la place au traitement médical et au docteur Julien Giraudon d'orchestrer tout ça. Bien entendu, on va faire tout le possible et adresser le patient à Jean-Philippe pour éviter une opération, soigner soi-même son dos et réussir à sortir de cette phase aiguë pour être guéri, et c'est 80-90% des gens. Mais pour les gens qui laissent persister des symptômes pendant plus de 6 semaines avec une énorme hernie qui écrabouille le nerf, eh bien, la décompression, qui est la première proposition que je voudrais vous expliquer par rapport à la chirurgie, le fait de décomprimer, c'est-à-dire d'enlever l'éboulis qui écrabouille la racine, eh bien, ça lève la compression sur un nerf qui n'est pas encore trop abîmé. Il souffre, mais il n'est pas abîmé. Eh bien, le nerf, il va reprendre une bouffée d'oxygène. L'oxygène, et c'est vraiment le cas, va repasser à l'intérieur du conduit qui était complètement écrabouillé. Et le patient va se réveiller, va vous dire « Ah, j'ai plus ma douleur. » Alors là, vous imaginez, pour le chirurgien qu'on est, c'est vachement grisant, quoi. Parce que le malade, on l'aide. Et il change de vie, parce qu'on sait que si on laisse persister le symptôme, il n'en serait pas pareil. Donc, heureusement, quand l'indication est bien posée sur une sciatique qui persiste depuis plus de 6 semaines, qui est en échec de tous les traitements non-invasifs qui ont été essayés avant, les infiltrations, la prise en charge kiné, la rééducation, les médicaments, eh bien, s'il y a vraiment une corrélation entre l'image, le symptôme du patient, vous l'aidez en le décomprimant, et c'est un triomphe. OK ? Au-delà, alors la hernie, effectivement, on peut l'opérer de plusieurs façons, et je ne vais pas insister trop parce que vous allez en avoir marre là, mais on a quand même inventé des écarteurs qui nous permettent aujourd'hui de faire des petites incisions comme ça au lieu de faire des grandes balafres comme il y a 20 ans. Vous n'imaginez pas à quel point la prise en charge de la hernie a changé. On a Mylène là, que je reconnais, qui était une des infirmières qui m'a connu tout bébé interne dans le service quand je suis arrivé avec mon hocher, ma tétine et puis ma valise de jeune apprenti chirurgien en 2000 à Poitiers. Mylène était déjà une infirmière très confirmée, mais à l'époque de Mylène, tu nous confirmeras, Mylène, mais quelqu'un qui se faisait opérer de la hernie discale, c'était 5 jours alité sans bouger dans le service. Aujourd'hui, une hernie discale, vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi ou le lendemain. Ça a beaucoup changé, cette prise en charge. Et c'est lié à la technique mini-invasive. Il y a une question fondamentale quand même qu'il faut discuter. Je vous ai déjà parlé. C'est OK, on veut tout faire pour éviter la chirurgie. Ouh là là, le chirurgien, attention, il ne faut pas que ce soit un escroc, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi comme le dentiste qui va faire péter 50 dents pour une carie et en demandant un devis incroyable. Il y a cette image, vous savez, du chirurgien aussi abusif. Mais il faut faire attention, parce que s'il y a un éboulis qui écrabouille la racine, qu'on veut tout éviter, mais que du coup, bah, on ne fait pas face à la réalité et qu'on essaie de s'en sortir avec une sciatique qu'on va laisser vieillir, eh bien, ce n'est pas 3 ans après, quand la douleur qui était initialement nociceptive et qu'elle est devenue neuropathique, c'est pas qu'en 3 ans après, la douleur sera indépendante des mouvements, qu'on aura des décharges électriques dans la jambe, qu'elle nous réveillera la nuit, qu'on sera quasiment mieux quand on marche, qu'on aura des zones où la sensibilité s'est éteinte à jamais. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra se reposer la question d'opérer. Donc il y a une notion de timing qui est super importante. Pour ça, faut pas être dans la nature livré à soi-même sans accès aux bons professionnels de santé. Pour ça, faut un super parcours de soins avec un système mis en place par le CHU, par le partenariat avec la ville qui permet d'aller voir le bon professionnel au bon moment, de faire les examens, de faire les bons traitements. Et au moment où on est présenté au chirurgien, bah, c'est pas sans IRM, sans avoir fait du McKenzie. C'est pas 3 ans ou 5 ans après quand notre vie est bousillée et qu'on a 900 euros par mois parce qu'on n'a plus d'alloc et qu'on est vraiment, j'ai été même surpris que tu n'aies pas mis le revenu moyen. Vous savez, l'étude Prédibac, hein, ce n'est pas des gens qui étaient sélectionnés comme ça au hasard et qu'on voulait opérer à tout prix. C'est du tout venant qui venait au centre antidouleur pour des problèmes de dos après s'être fait opérer. Quelle que soit l'opération, quel que soit le problème de dos. Revenu moyen de quelqu'un qui a attendu 12,7 ans avant d'arriver au point de l'étude Prédibac, 900 euros par mois. 900 euros par mois. Vu le prix qu'on paye quand on va acheter 2 interrupteurs à Leroy Merlin ou faire 3 courses avec une petite bouteille de champagne à Leclerc, 900 euros par mois, c'est pas beaucoup. Hein. Ce matin, voilà, il y en a qui ne prennent pas de champagne. Ou ce matin, on avait une patiente qui nous disait, moi c'est simple, j'ai 3 gosses à la maison, celle qui avait l'alcoolisme chronique, elle nous a raconté ce matin, j'attends la grosse promo chez Lidl, et puis au moment où c'est la saucisse, j'en prends 50 kilos, j'en congèle 20 barquettes, et puis on mange de la saucisse pendant 3 mois, quoi. Hein. Enfin, faut se rendre compte hein, de ce que c'est que la vie à 900 euros par mois. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas aussi aisés que d'autres. C'est compliqué, c'est un cercle vicieux dont il faut essayer de se sortir. Et pour ça, le timing, il est très important. Il faut être bien accompagné. Le deuxième exemple de la chirurgie mécanique, eh bien, c'est la fusion ou l'instrumentation. C'est-à-dire qu'on a une colonne qui est complètement tordue, qui a une déformation, souple ou pas souple. Et là, c'est plutôt effectivement le jeune adolescent. Et effectivement, bah oui, ça vous impressionne vachement de voir des vis, des boulons, des plaques, des tiges, comme disent les patients partout. Mais n'empêche que ce jeune-là, à qui on a remis la colonne beaucoup plus droite, bah, il a repris l'équitation, il a changé de vie, il n'aura pas d'arthrose surdéveloppée quand il aura 20 ans de plus, et il va vieillir différemment, il va profiter de la vie différemment. Donc, grosse artillerie lourde, on va dire, pour grosse problématique, hein, parce que le dos tordu comme ça, c'est quand même très sérieux. Ça affecte même votre capacité à bien respirer, tellement la colonne est tordue et que les poumons sont cloîtrés dans un espace qui ne leur permet pas de s'expandre correctement. Et effectivement, j'aime beaucoup cette citation que Nicolas a trouvée, « La caresse est le produit d'un long polissage de la bestialité. » C'est juste pour vous dire, c'est une phrase que mes chirurgiens vont adorer, je pense, c'est juste pour vous dire, bah oui, ok, c'est les grosses opérations, c'est du sérieux, quoi. Mais on remet avec des tiges la colonne droite et le patient, il change de vie et ça lui fait du bien. Et les résultats des scolioses opérées sont excellents chez le jeune adolescent qui se remet de tout ça en une semaine la plupart du temps. Voilà. Et j'ai plein de copains et de copines, mais ils sont contents effectivement de pouvoir partir en vacances et faire du kitesurf ou autre parce qu'ils ont été opérés dans leur adolescence et aujourd'hui ils ont 50 ans et tout va bien, tout continue à bien aller. Décompression, effusion, parfois il faut décomprimer parce que le canal est très serré et il faut discuter de mettre des vis autour parce qu'on commence à avoir des glissements à droite et à gauche. Alors, il y a 20 ou 30 ans, c'était assez rare cette discussion. Aujourd'hui, elle est super fréquente. Parce que l'espérance de vie, elle a vachement augmenté. La population, elle vient nous voir de plus en plus tard. Et aujourd'hui, eh ben, le quotidien, pour Dr Tessédou, Dr Svenen, effectivement, Dr Moufid qui est au fond, eh ben, le quotidien aujourd'hui, c'est de voir des patients qui ont 78 ans, 82 ans, et puis on se pose la question de savoir s'il faut y aller ou pas avec des chirurgies plus ou moins lourdes. Donc c'est important quand même de se rendre compte de ça. On vit de plus en plus vieux. Aujourd'hui, on opère quelqu'un d'une fracture du col du fémur quand il a 99 ans ou 102 ans. Et bien, la colonne vertébrale, il faut aller vers des techniques les moins invasives possibles aussi parce qu'on a effectivement cette population qui va développer de plus en plus d'arthrose, qui va vivre de plus en plus longtemps et sur lesquelles les solutions vont être de plus en plus compliquées parce que à chaque fois, là, le risque, c'est que ça tombe comme un château de cartes. Donc, il faut peut-être mettre des vis, mais les vis, ça alourdit l'opération. Et peut-être qu'il faut faire une technique très mini-invasive ou une technique très maxi-invasive en fonction, effectivement, du patient. Là encore, très complexe. Je serais heureux d'avoir des outils pour m'aider à prendre la bonne décision. Je vais vous en parler pour finir. Alors là, je vous ai fait la première partie mécanique. Et la première partie mécanique, effectivement, prendre la bonne décision au bon moment et ça peut effectivement changer les choses quand on est en résistance de tous les traitements ou dans le cadre de l'urgence. La partie neuropathique, c'est un peu l'opposé. C'est un peu l'opposé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un chirurgien de la colonne vertébrale. Mais il faut en trouver un bon, pas un escroc. Quelqu'un qui a une éthique, quelqu'un qui va dire « Mon but à moi, c'est que vous alliez mieux, c'est de ne surtout pas vous opérer si je peux vous l'éviter, comme si vous étiez ma sœur ou ma mère. » C'est ce que je dis toujours aux patients. C'est-à-dire que moi, si je n'opère qu'un patient sur 10, je suis le plus content du monde. Ne serait-ce que parce qu'on travaille 15 heures par jour et qu'on a beaucoup de gens qui attendent des mois et des mois avant de se faire opérer. Donc ça, j'aimerais que vous ayez cette image en sortant quand même, en tout cas avec l'équipe de Poitiers, ce sont des gens qui disent « Moi, si je peux éviter l'opération, je le fais. » Et c'est vachement important quand même. Moi, quand je vais voir mon garagiste, qui me disent si je peux t'éviter de changer la pompe à injection, je le ferai. Et là, le patient, ce patient-là, il est effectivement parfois complètement à côté de la plaque. Vous, moi, mes parents. Parce que le patient, comme disait le docteur Neidich en sociologie, il est dans une société où quand on ne sait pas effectivement si qui a raison, qui a tort ou pas, on regarde sur Google et sur son iPhone pour savoir effectivement qui a raison, qui a tort. Et puis quand on attend 5 minutes effectivement à Casto, à la caisse, on passe son temps à gueuler parce que c'est scandaleux d'attendre à la caisse. Et on veut tout de suite. Et on veut régler tous les problèmes. Et quand on va voir la médecine, on a l'impression qu'on a affaire à des ingénieurs. Ils vont appuyer sur un bouton. Et puis, je vous préviens, docteur, faites quelque chose. Parce que moi, je veux revenir à une vie normale. Vous m'entendez? Normale. Et opérer 9 fois de la colonne, du haut jusqu'en bas, sous morphine, désocialisé. Non. Donc là, on a un problème par rapport aux attentes du patient. Et plus un patient a des attentes, il nous les cache et on n'arrive pas à les débusquer, plus la chute, si j'ose dire, va être grande si on ne répond pas à ses attentes. Et ça, c'est très important, très, très important à évaluer. C'est sous-évalué dans notre métier. On ne prend pas le temps parce qu'on voit trop de patients, parce qu'on ne prend pas 45 minutes pour examiner bien un malade, pour discuter avec lui. Et aujourd'hui, c'est le luxe qu'on a dans une consultation effectivement de la douleur chronique où on peut passer une heure et demie. Alors oui, on est à la bourre cet après-midi. Cet après-midi, il gueulait parce qu'on est à la bourre. Mais quand c'est quelqu'un qui vous dit « J'ai besoin que ma vie change, j'ai fait le ménage, j'ai plus mon alcoolique chronique à la maison et c'est maintenant ou jamais », il faut prendre le temps de l'écouter. Donc, est-ce qu'un patient il veut moins de douleur? Est-ce qu'un patient il veut moins de médicaments? Parce que je vais vous dire en 2 secondes que les médicaments, ce n'est pas du tout la solution et la panacée, vous allez le voir. Ou est-ce qu'un patient il veut en faire plus, quitte à souffrir à peu près pareil, mais en faire plus? On a des chauffeurs routiers, ils reprennent le camion, ils reprennent la route, ils continuent leur boulot, ils passent que de 6 à 4 sur l'échelle de la douleur qui va de 0 à 10, donc ils n'ont que 20 à 30% de douleur en moins, mais ils sont super contents. Donc tout ça, ce seuil, il est très relatif. Et c'est là où il y a toute la problématique. Bon, bah moi, je veux pas faire grand-chose. Hein. Vous avez affaire à une sportive de haut niveau qui a été championne de France de VTT, je me rappellerai toute ma vie. On l'a opérée au bloc sous hypnose, on a fait la descente du Mont Ventoux à fond les ballons, donc je me rappelle très bien. Eh bien, cette patiente, elle disait, oh, je veux refaire un peu de vélo, quoi. On lui disait, c'est quoi refaire un peu de vélo? C'est aller chercher le pain à la boulangerie? Non, 50 bornes, 70 bornes, comme ça, vite fait, quoi. Voilà. Et bah là, attention, hein. Parce que si vous voulez recourir un marathon, redanser comme il y a 25 ans quand vous faisiez les cabarets et puis vous étiez au Paso Doble à fond, faire de la montagne, c'est compliqué. Il faut faire attention aux attentes des patients. Donc, il y a, une fois qu'on a les douleurs chroniques, qu'on a les douleurs neuropathiques, qu'elles commencent à être inscrites dans votre organisme et qu'on ne peut plus rien, on a un centre antidouleur au CHU où on peut vous proposer une prise en charge globale qui va être une escalade croissante dans l'invasivité pour aller des choses simples aux choses compliquées et vous épauler et réévaluer tous ces aspects-là de votre vie. Mais avant tout, je vous donne quelques clés pour vous montrer à quel point c'est complexe et pour vous montrer à quel point le chirurgien du rachis est important quand même dans ce rôle-là. Avant tout, il faut une dernière fois pour toutes, avant de fermer le dossier de la colonne à opérer ou pas, il faut tomber sur quelqu'un de bien qui va dire « là, il n'est pas raisonnable d'aller réopérer pour la troisième fois ». Mais parfois, un patient s'est fait opérer 5 fois et il est raisonnable d'aller l'opérer une 6e fois en bordant bien les attentes avec lui, parce que c'est pas parce qu'il a été opéré 5 fois qu'il ne peut pas développer un rétrécissement du canal juste au-dessus qui est totalement mécanique et qui ne relèverait de rien d'autre que d'une opération pour être à nouveau décomprimé et se sentir beaucoup mieux. Hier, on a opéré avec le docteur Bouloud encore un patient qui a reçu un stimulateur qui venait du Luxembourg, monsieur T, et monsieur T, il a été vu pour la première fois pour un Feldback Surgery Syndrome, ça veut dire chirurgie du dos qui a foiré en anglais. Ça veut dire patient déjà opéré 5 fois, monsieur T, avant qu'on le voie pour la première fois. Il était désespéré, il avait fait tous les centres antidouleurs de Luxembourg, de Belgique, de la France et d'ailleurs. Et il venait pour recevoir une stimulation implantée parce qu'il savait qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Bah, on a rediscuté de son dossier. Il avait des douleurs totalement mécaniques sur un canal totalement rétréci au-dessus de l'endroit où il avait toutes ses vis. Et on a dit, monsieur T, on va commencer par vous réopérer. Et déjà, ça ne va pas régler tous les problèmes. Vous n'allez pas retrouver une vie normale, mais on va traiter la cause d'une partie importante de vos douleurs aujourd'hui. On va se débarrasser du mécanique, du nociceptif. Déjà, vous allez vachement mieux. Et puis après, comme on est une équipe, comme on est une prise en charge globale, je vais finir par ça, et ben on va s'occuper du reste de vos douleurs neuropathiques après vous avoir réopéré une 6e fois. Et je peux vous dire, vous devriez écouter l'interview de monsieur T. Ben, monsieur T, il a été super content déjà de la première opération qu'on lui a faite, qui était mécanique, de décompression. Et puis 6 mois après, tout était déjà prévu. Il est revenu pour un parcours de stimulation, où effectivement, on lui a mis son électrode de stimulation test pendant 1 semaine, et on lui a dit, est-ce que ça vous fait un peu plus de bien ou pas? Il nous a dit, c'est totalement génial. Et la semaine d'après, on lui a mis son pacemaker, qui est la technique de stimulation pour les douleurs chroniques réfractaires à tout, chez des patients très, très, très sélectionnés. Et monsieur T est sorti du service aujourd'hui, et il est équipé. Et il a eu un traitement à la fois mécanique et à la fois neuropathique pour une prise en charge globale et aller mieux. Et c'est ça l'histoire qu'il faut construire aujourd'hui. L'histoire qu'il faut construire aujourd'hui, c'est d'arrêter ces conneries. Excusez-moi, je suis un peu passionné et je vais essayer de faire vite parce que l'heure file. Mais on a été intoxiqué par le lobbying pharmaceutique pendant des années pour prescrire plein de médicaments à tout le monde. Et aujourd'hui, on avait soi-disant des médicaments qui avaient 15% d'effets secondaires. Ah non. Quand je vois un patient à la douleur qui est sous Lyrica ou Neurontin, c'est ces médicaments-là, il y a 100% des patients qui ont des effets secondaires, pas 15. Ils sont tous farcis, abasourdis, avec des vertiges, en ayant l'impression de fonctionner à 2 à l'heure. Et leur mari ou leur femme est là pour nous le confirmer. Donc, il faut faire très, très, très attention à tout ça. Vous avez vu il y a quelques jours l'émission sur le cholestérol, les anticholestérolémiants? Ça fait des années qu'on en bouffe tous, enfin en tout cas tous en contenant. Aujourd'hui, bon, ça donnerait peut-être un peu des cancers, ça donnerait peut-être un peu des problèmes d'hypertension, des infarctus au bout du compte, et peut-être que le cholestérol finalement haut, ça ne serait pas quelque chose de mauvais par rapport au risque d'infarctus. Ah, grosse surprise, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais attention au pouvoir de tous ces gens-là qui aujourd'hui ont créé beaucoup, beaucoup de gens dépendants. Cet article, il est sorti dans la plus grande revue médicale mondiale. Je peux dire que pour passer un article là-dedans, on a déjà essayé, nous, avec Prismatics, on s'est cassé les dents. En gros, il faut faire la révolution, quoi. Il faut inventer une électrode qui fait marcher les paraplégiques. Ça, ça passe, effectivement, dans cette revue-là. Bien, cette revue-là, 10 ans après la sortie de ces médicaments, le Lyrica, que moi, je prescrivais tous les jours. Hein. Je m'étais fait faire une ordonnance spécifique quand j'étais jeune chef de clinique à Poitiers pour aller plus vite, parce que comme il faut faire des croissances régulières de médicaments, ça allait plus vite d'avoir une ordonnance toute faite. Donc, je n'avais plus qu'à la signer en bas. Donc, tous les patients douloureux chroniques que je voyais, ben, je leur mettais un peu de Lyrica, parce que c'était montré que c'était bien. Et ben, aujourd'hui, il y a les chiffres vrais qui sont sortis là sur le Lyrica. NNT égale 7. C'est un truc bien barbare, NNT. number needed to treat. Ça veut dire le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un patient content. Vous savez combien il faut en traiter pour en avoir un content ? 7. Ça voudrait dire qu'il faudrait opérer 7 malades pour avoir un malade content. Vous vous rendez compte ? Pas bon, hein ? Donc aujourd'hui, ce médicament, y a une chance sur 7 qu'il vous fasse du bien. Après, vous voyez si vous voulez vous le faire prescrire ou pas. Nombre de morts des opioïdes aux États-Unis aujourd'hui, c'est pire que les accidents de voiture. Faut faire gaffe, hein ? Faut faire gaffe. Donc la solution, c'est pas forcément le médicament. Alors là, une petite diapo sur l'électronique, parce qu'effectivement, l'électronique, nous à Poitiers, c'est un peu notre spécialité, mais c'est pour des patients très, très, très sélectionnés. Aujourd'hui, alors que ça peut être mystifié comme une technique très, très barbare, aujourd'hui, à travers une aiguille de péridurale chez une femme enceinte, vous montez un petit cathéter sur lequel il y a des contacts électriques, vous discutez avec le patient pendant ce temps-là, il est en train de vous raconter qu'il prend l'apéro, qu'il adore le whisky comme la semaine dernière écossais, ou bien qu'il est en train de plonger avec les Remonta dans la mer rouge sous hypnose, et ça, c'est les copines de Limoges, hypnothérapeute, médecin de la douleur. Et ce patient, pendant que je monte son électrode, il discute tranquille. Et puis quand mon électrode est monté, c'est comme un cathéter chez une femme enceinte. Je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté dans la salle. Moi, j'étais plutôt content que ma femme elle accouche avec une péridurale, hein, qu'on ne soit pas dans le mode médiéval barbare. Est-ce que c'est invasif ou pas une péridurale ? Moi, j'ai trouvé ça plutôt fait en 3 minutes. Et puis ça lui a changé la vie et les souffrances. On a accueilli dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, en un quart d'heure chrono, dans une équipe entraînée, on peut essayer de voir si, quand on a tout essayé, qu'on a un patient qui est au bord du pire parce qu'il n'y a plus de solution, est-ce qu'un petit cathéter ne mérite pas d'être essayé pendant une semaine en sachant que si le patient n'est pas content, on l'enlève comme on tirerait sur une ficelle. Voilà. Ça, c'est l'extrême de l'extrême, c'est la stimulation, c'est l'électronique dans le corps des patients, mais sur des indications très, très, très sophistiquées, très striées, ça peut rendre service à certains patients qui ont des lombalgies rebelles à tout, au bout du rouleau, déjà opérées. Voilà. Ça ne veut pas dire demain qu'il faut que vous soigniez à cette porte-là, c'est pas ça. Mais il faut que vous ayez ça en tête quand même. Essayez d'avoir les bons messages. Les dernières clés, c'est quoi ? Pour essayer de comprendre cette sensation subjective, il faut l'évaluer différemment. Parce qu'aujourd'hui, combien t'as mal, ça ne veut rien dire. À une époque, pendant nos études de médecine, on disait quand la douleur est faible, il faut mettre du doliprane, quand la douleur est forte, il faut mettre de la morphine. Ok, quand vous venez de vous prendre un carton avec un bus et qu'en préhospitalier, comme on dit avec le SAMU, il faut agir très très vite parce que vous avez un morceau d'os qui sort et que vous avez énormément mal. Mais une migraine, quand vous avez une migraine, vous avez tous une migraine dans la salle ? Non, pas tous ? Moi, j'ai déjà eu 2-3 migraines. Vous avez envie que ça s'arrête, hein ? Parce que ça, c'est à se taper la tête contre les murs. En général, un migraineux, il va nous dire « j'ai 11 sur 10, moi, sur l'échelle de la douleur ». C'est pas pour ça qu'il faut lui mettre de la morphine. Il faut lui mettre un anti-migraineux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, cette sensation, il faut l'évaluer différemment pour prendre les bonnes décisions. Et vous l'avez compris, le monde de la douleur, entre neuropathique, nociceptif, un peu, beaucoup, compliqué, pas opéré, ça peut devenir un désert duquel on a beaucoup de mal à se sortir, vous les patients, parce que vous en êtes victimes, mais nous les médecins, parce que la décision, elle est super compliquée à prendre, à un moment donné. Et vous devez l'entendre aussi. C'est pour ça que mes 2 derniers messages, c'est les suivants. Le premier, c'est qu'il faut une bonne équipe autour de vous. Quand c'est simple, il faut régler les choses avant de nous rencontrer. Et moins vous nous rencontrerez, mieux ce sera pour vous et pour tout le monde. Et il y a des gens à côté de moi, avant, en ville, avant qu'on aille à l'hôpital, qui peuvent vraiment vous aider dans leur cabinet de kiné ou dans leur cabinet de rhumatologie. Et c'est ça la solution pour la lombalgie commune, pour que vous alliez mieux rapidement avec l'auto-éducation. Et puis quand vous arrivez sur une histoire difficile, plusieurs opérations, des douleurs compliquées, la force que moi j'ai, c'est que je ne travaille pas tout seul. Parce que je ne sais pas tout faire bien. Et qu'à un moment donné, ce que je faisais bien en 2006, décomprimer plus, effectivement, rajouter des vis, aujourd'hui, je le fais vachement moins bien que les gens qu'il y a aujourd'hui dans cette salle autour de moi et qui font ça beaucoup mieux que moi. Parce qu'on ne peut pas tout faire bien, il faut le reconnaître. Donc, là, vous avez une équipe avec des gens en vert qui sont de l'univers orthopédique. Docteur Moufili au fond de la salle. Lui, c'est le grand professionnel des grandes déformations. Il va réparer et remettre droit les jeunes. Vous avez le docteur Tessédou, puis vous avez le docteur Svenen qui sont juste là. Eux, ça va être les super-héros de votre vie si jamais vous ne vous en sortez pas et qu'il faut discuter de mettre des vis, pas des vis, vous opérez par devant, par derrière pour essayer de réparer votre disque quand on a tout essayé puis qu'il est malade. Pour essayer de ne pas tomber dans la chronicité. Et puis si jamais ça ne suffit pas et ça ne va pas, on a des gens ici spécialistes de la douleur, anesthésistes qui peuvent faire des infiltrations très précises sous échographie, vous proposer un programme global, on va faire de la méditation pleine conscience, on va faire de la sophrologie, on va faire de l'hypnose, on va vous mettre une auto-rééducation en place, vous allez avoir des évaluations psychologiques, on va vous aider à vous reconstruire socialement, on va vous regarder s'il y a un nouveau métier qui serait plus adapté pour vous, on va vous éduquer pour vous montrer comment bouger, faire un atelier jardinier avec les jardiniers de l'hôpital dans la maison Villa Santé où on fait de l'éducation thérapeutique comme ça avec les patients. Vachement bien reprendre le jardinage. Mais le jardinage, quand on le reprend, mais faut pas se mettre à bêcher comme ça à l'envers, derrière le noisetier. Faut avoir un potager qu'on surélève, faire ça debout tranquillement, pas plus d'un quart d'heure avec des bons professionnels qui vous apprennent comment bêcher. Moi, la première fois qu'on m'a appris à faire de la pelle, j'ai fait avant, je mettais 4 heures pour faire un trou de 20 cm carrés. J'y arrivais pas, j'avais mal pendant 3 jours. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui fait ça depuis qu'il a 14 ans. Il m'a expliqué qu'il faut pas se baisser, faut pas forcer, faut gainer, faut se mettre droit, et puis la pelle doit venir à vous. Ça a tout changé. Il faut juste écouter celui qui sait faire. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une prise en charge multidisciplinaire, comme on dit. Et ça, c'est la première clé. Et honnêtement, si vous en arrivez malheureusement à un stade compliqué, bah, au CHU, vous avez une très très belle machinerie avec des hommes, et justement pas que des machines, pour faire les choses bien, pour essayer de vous aider. La dernière clé, je vais finir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a beau être faire 15 ans d'études, 20 ans d'études, essayer de se updater, comme on dit, au niveau des connaissances médicales, bah aujourd'hui, c'est compliqué d'être à la page et puis de prendre la bonne décision. Parce que c'est trop compliqué. On l'a vu. Mais même pour nous, trop compliqué. Quelqu'un de 78 ans, sous anticoagulant, qui a fait un infarctus, qui a une prothèse de hanche, qui a une douleur du devant, on ne sait pas si c'est la hanche, on ne sait pas si c'est le dos. Si c'est le dos, il faut peut-être décomprimer. Peut-être qu'il faut rajouter des vis. Peut-être qu'il faut faire les deux. Ou peut-être surtout pas. Ça devient super compliqué. Donc nous, à Prismatic, c'est ce que je voulais vous présenter pour finir, bah on s'est dit, quand le week-end, vous voulez faire un barbecue, là, bah, il y a 10 ans, on regardait un petit peu comment était le vent, et puis mon oncle, hein, moi je suis d'une famille de paysans, il disait, oh là là, Philippe, là, il va pleuvoir, là, tu fais attention. Et puis, ouais, mais il pleuvait pas du tout, quoi. Donc, bah, j'écoutais tous ces gens-là. Mais effectivement, parfois on avait raison, parfois on avait tort. Aujourd'hui, on a des applications qui nous disent, il y a 11% de chance ou 0% de chance qu'il pleuve dans l'heure qui suit. Ah bah moi, la dernière fois que j'ai tondu ma pelouse, ça m'a vachement aidé. Hein, parce que comme d'habitude, suroccupé, je fais mes courses à Auchan, moi, à 9h30 le vendredi soir, puis je tombe ma pelouse en essayant de ne pas trop déranger mes voisins vite fait le week-end, le samedi matin. Bah, il m'annonçait 0% de pluie de 10h à 11h et 100% de pluie à 11h. Et bah, j'ai tondu vite fait de 10 à 11h, impeccable. Et puis à 11h, j'ai rangé ma tondeuse et il a commencé à flotter. C'est quand même incroyable, quoi. La météo aujourd'hui, elle a une précision qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, qui est incroyable. Vous le savez, vous regardez, vous acceptez des cookies, c'est malheureux. Mais après, si vous avez regardé par malheur un prix de billet d'avion pour aller à Lisbonne faire vos vacances, et ben après, vous recevez toutes les publicités sur les espadrilles, etc. C'est la puissance d'Internet. Mais la puissance d'Internet, il faut l'utiliser pour nous aider à dépasser notre champ de conscience. Et c'est ça, la belle vision de l'intelligence artificielle. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un barbecue, vous avez un outil qui peut vous dire « t'as 100% de chance de te planter, mon gars, ou t'as 100% de chance d'y arriver. » Et ça, c'est indépendant de notre conscience. Et vous devez réaliser que les mathématiques et la science du traitement des données à haute volumétrie, comme on appelle, elle a un vrai rôle à jouer en médecine. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, nous, on a créé cette cartographie et on a l'entrée. Et Jean-Philippe vous a montré, je fais des cartographies à tous mes patients pour voir s'ils réduisent ou pas leur douleur, s'ils sont contents de leur qualité de vie ou pas. Mais nous, notre idée, c'est de pouvoir traiter ces données avec des statisticiens, des mathématiciens, et pouvoir compiler la mesure de la surface douloureuse, l'alcoolisme chronique du père, la situation sociale difficile, le patient qui a des attentes importantes parce qu'il veut recourir un marathon et qu'il était sportif de haut niveau, et celui effectivement qui est juste un peu complètement abasourdi et qui veut diminuer les médicaments. Et pour ces patients-là, chacun doit avoir une solution différente que les mathématiques peuvent nous aider à trouver. Et c'est ça qui est important. Donc, pour finir, une bonne équipe, des nouveaux outils. Aidez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on a un projet justement de recherche qui s'appelle PrediPain, qui est effectivement qui passe par les fonds Aliénor et qui est un projet où, à partir des outils qu'on a développés, on veut essayer d'avoir des statisticiens, des bases de données importantes, des salles où on sauvegarde ces données de manière sécurisée pour que des autorités de santé puissent les auditer s'il y a besoin d'être sûr que ces données sont fiables. Et ça, bah, ça coûte beaucoup d'argent. Donc effectivement, ce soutien-là, il sera important pour que demain, on trouve les outils pour essayer de mieux vous soulager grâce aux compétences médicales que vous avez dans la salle, mais aussi à la nouvelle façon d'appréhender ce monde qui passe par l'électronique et qui passe par l'intelligence artificielle. Il faut aujourd'hui en prendre conscience. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Donc on a un peu débordé parce qu'on est tous des enthousiastes passionnés. Franchement, on peut prendre quelques minutes et le temps, si certains d'entre vous ont des questions, pour que on puisse essayer de vous éclairer, et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous dans les minutes qui viennent. Voilà. Ceux qui ont un repas en famille ou des impératifs, n'hésitez pas à quitter cette salle parce qu'on a fait une conférence déjà un peu longue. Il n'y a aucun souci. Merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, est-ce qu'il y a des questions?
J'allais poser la question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Merci, bonsoir. Je voulais poser deux questions. La première, qui doit être assez simple, que penser des cœurs thermales? La deuxième, dont j'ai entendu parler, en concernant la technique du PRP, c'est une technique qui consiste à faire une prise de sang, à préparer le sang prélevé et à l'ingérer, faire une injection par échographie ou radio. Je ne sais pas, c'est en marge de ce qui vient d'être dit ce soir, bien sûr, mais c'est pour traiter apparemment les problèmes de cartilage.
Merci.
Première question. Alors, à chaque fois, on va faire une réponse de médecin de ville et une réponse de chirurgien d'hôpital ou de praticien d'hôpital. Ce sera intéressant.
Alors, pour les PRP, à ma connaissance, pour l'instant, en effet, c'est des techniques qui sont utilisées plutôt dans l'arthrose, mais plutôt périphérique ou éventuellement lésions tendineuses. Au niveau des tendons de l'épaule ou du genou, enfin l'arthrose du genou. Après, c'est très débattu parce que c'est des techniques, pour faire simple. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui montrent, d'études très bien faites qui permettent de montrer un bénéfice réel sur l'amélioration, surtout des douleurs et sur le plan fonctionnel. Et après, au niveau tendineux, sur le plan tendineux, c'est peu démontré. Il y aurait peut-être des intérêts dans l'arthrose, mais ce n'est pas dans l'atteinte rachidienne, à ce que je sache pour le moment, qui soit recherché, en fait. Et pour finir, pour les cures thermales, ça, c'est toujours des débats très, très enflammés. Il y en a qui sont pour, contre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses absolues. Après, les cures, ça existe depuis l'époque romaine. Hein, donc, a priori, c'est plutôt bénéfique. Après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis, ça permet aussi de sortir de contexte des personnes qui vont en cure, de plus se retrouver chez eux, de couper un peu. Et donc, je pense qu'il y a un effet positif dans cette démarche-là. Et puis, on a des gens qui s'occupent de vous aussi. Donc, je pense qu'il y a un intérêt. Après, c'est toute la question du remboursement ou ainsi de suite. Et puis, il est vrai que... En règle générale, sans faire de procès ou quoi que ce soit, les cures thermales sont des villes quand même qui ont des, y a des enjeux politiques aussi et financiers pour maintenir l'activité de ces villes. Donc c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte en fait. C'est assez complexe, mais je pense que ça peut être bénéfique. Après, bon, c'est voilà.
Alors moi, si je peux vous donner un écho complémentaire, hein. En fait, vous soulevez une question qui est très importante. Hein. C'est celle de la recherche et c'est celle de adopter un traitement quand effectivement on a un niveau de preuve suffisant pour pouvoir le promouvoir vis-à-vis de l'intérêt du patient. Aujourd'hui, dans les journaux, si vous achetez l'Express sur le mal de dos, je me rappelle, on a fait un article il y a quelques années sur ce numéro-là, vous allez avoir plein de choses, quoi, parce que demain, quelqu'un dans son garage fabrique avec du kérosène et puis un peu de jus de fruits, une nouvelle potion magique qui a rendu service à 5 gens autour de lui dans la rue, bah, s'il s'en sort bien au niveau médiatique, il va mettre ça en avant. Et puis pour peu que les journalistes soient intéressés par le concept, parce que ça peut faire vendre un peu de journaux, bah demain vous avez un truc qui arrive aux news nationales. Quoi. Et c'est toute la problématique de la médecine. Et c'est toute la problématique de la prescription de molécules pendant 15 ans pour se rendre compte après que ça n'a pas marché, après avoir inondé des milliards de gens pour des milliards d'euros dans des molécules qui ne marchent pas autant que ce qu'on aurait imaginé. Donc la question, ce n'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. La question, c'est savoir, dans un système de soins, je vais être très dur, hein, mais c'est tranché, c'est comme ça. Dans un système de soins où le français n'a même pas conscience et ne sait même pas combien coûte une IRM, et où il n'y a plus un seul centime dans un état déficitaire. Quand moi j'ai eu la chance d'aller travailler à Londres ou à Chicago, et que quand vous consultez un médecin, c'est 2 000 $, quand vous faites hospitaliser 2 jours, c'est 15 000 $, quand vous faites mettre un stimulateur qui est remboursé par la sécurité sociale aujourd'hui en France, c'est 100 000 $. Et que vous faites des prêts familiaux et que vous endettez toute votre vie ou vendez votre maison pour recevoir un traitement, il vaut mieux qu'il marche. Hein, parce que sinon, c'est dommage pour vous. Et aujourd'hui, le français n'a pas conscience de ça. Clairement pas. Combien coûte une IRM, vous savez ou pas? Non. Bon. Donc, aujourd'hui, on gueule parce que l'IRM, on ne l'a pas en 3 semaines. Et bien, vous savez ce qu'ils ont fait à Paris? À Paris, vous avez 5 jours de délai sur les IRM sur certains centres. Ils font tourner la machine le dimanche. Vous avez votre rendez-vous le dimanche après-midi. Aucun problème. C'est un problème simple, en fait. Pour ça, il faut des gens pour travailler, il faut des machines qui tournent, et puis il faut raccourcir les délais en s'organisant comme le privé. Sauf qu'à l'hôpital, on ne peut pas le faire. À l'hôpital, on a beaucoup d'arrêts de travail pour beaucoup de problèmes de lombalgie. Et c'est un cercle vicieux. Donc, quand on voit le privé 5 jours d'IRM à Paris pour effectivement des manips qui travaillent le dimanche et puis qu'aujourd'hui, quand on veut aller au Roi Merlin bricoler le dimanche, c'est fermé, il y a un contraste saisissant en France en fonction du système et de la façon dont le système est organisé autour du fric. Excusez-moi d'être très cru. Donc, on en revient à votre question parce qu'elle est vachement importante. Aujourd'hui, moi, si je suis monsieur qui rembourse ou qui ne rembourse pas les soins en France, bon, l'homéopathie, je ne suis pas contre, parce que j'ai mes beaux-parents qui en prennent depuis 50 ans parce qu'ils ont les mains moites, parce qu'ils ont une angine, parce qu'il faut faire un peu de cuivre dès qu'on commence à avoir mal à la gorge et tout ça. Mais moi, je suis allé à la FNAC regarder ce que c'était que le dictionnaire de l'homéopathie. Et dans le dictionnaire de l'homéopathie, à la page 37, il y a comment soigner une appendicite aiguë. Ça m'emmerde. À la page 42, il y a comment soigner la maladie d'Alzheimer. Ça m'emmerde vachement. Et à la page 58, il y a comment soigner la maladie de Parkinson. Ça m'emmerde encore plus. Donc, l'homéopathie, ça marche peut-être chez mon beau-père. Mais moi, si je suis dans un système déficitaire, que je dois faire le tri très drastique entre des techniques qui doivent faire leur preuve de validité, ben je dis non, je ne rembourse pas. Donc le PRP, il y a des papiers qui sont sortis, mais il n'y a aucune étude comparative qui montre que ça marche mieux que le placebo en double aveugle chez des patients chez lesquels on injecte. Donc aujourd'hui, en tant que thérapeute, surtout dans un système de soins restrictifs, moi je dis non. La cure thermale, c'est vachement sympa la cure thermale, mes parents, je vous promets, ils en ont fait une il y a 2 semaines. Pendant 50 ans, ils ont économisé dans leur vie. On n'a jamais fait un resto. Je suis d'un milieu très humble et d'une famille vraiment paysanne. Et mes parents, à 75 ans, ils ont découvert la cure thermale. Parce que quand ils sont venus à Poitiers, je leur ai offert 2 jours au Thalassa d'Oléron. Et ils ont trouvé ça. Ils ont halluciné, quoi. Donc la question, c'est pas de savoir si la cure thermale, ça fait du bien ou pas. Bien sûr que ça fait du bien. On vous fait des câlins, vous avez un super programme, vous faites des soins, c'est vachement sympa. Et vous avez un petit resto sympa, on s'occupe de vous faire manger une soupe au concombre, on fait gaffe au niveau diététique, il y a du yoga à 15h, et puis il y a un coach qui est personnalisé, qui s'occupe de vous. Ben, c'est vachement bien. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais la cure thermale, aujourd'hui, on peut pas la rembourser en France. Sauf si on est maire à La Roche-Posay, ou j'en sais rien. C'est pas possible. Parce que sinon, il faut rembourser le jeûne et puis la médecine ayurvédique avec un séjour chez des moines en Inde où on apprend effectivement à planter dans un potager et à changer de philosophie, quoi. Mais attendez, j'ai dit ça à un patient aujourd'hui. Il me disait, j'ai pas le choix, donc je vais me faire traiter. J'ai dit, mais bien sûr que vous avez le choix. La personne avec qui je jardine, moi, parce que j'ai découvert le jardinage il n'y a pas longtemps, ça me rapproche de la terre, ça me rapproche de mes sources, ça me fait vachement plaisir de jardiner un petit peu. Et bien cette personne-là, elle part 4 mois en Inde tous les ans, quand la terre se repose, elle part en Inde. Il va être très content s'il apprend que j'ai parlé de lui aujourd'hui. Eh bien, il y a, mais il change complètement de vie quand il change de système, quand il change de philosophie, quand il s'occupe avec une autre médecine que la médecine française impuissante par rapport aux problèmes qu'il a. Il a des calculs de reins, il est suivi effectivement à la polyclinique, il ne s'en sort pas, il a des problèmes de dents, on lui enlève plein de dents, et il va rencontrer une autre source d'énergie dans un autre système qui est vachement bien et qui, je suis sûr, lui apporte quelque chose que la médecine classique ne lui apporte pas, comme la cure thermale. Mais si je suis dans un système déficitaire, que mes patients ne savent pas combien coûte une IRM, que la cure thermale ne fait pas la preuve de son efficacité contre une autre technique, dans une étude bien menée, de manière randomisée, c'est-à-dire en tirant au sort, toi tu vas faire la cure, toi tu ne vas pas faire la cure, toi tu vas faire la cure, toi tu ne vas pas faire la cure, et puis on va voir à la fin qui est-ce qui est content, qui est-ce qui n'est pas content. Eh bien, moi j'ai un niveau de preuve insuffisant aujourd'hui pour vous recommander ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis désolé, j'étais un peu long dans la réponse, mais c'est vraiment quelque chose qui va toucher le médicament, les soins paramédicaux et tout ça. Le problème que vous soulevez, c'est est-ce qu'il faut bien s'occuper, essayer de réentourer quelqu'un qui se désapproprie de son corps ? Est-ce que ça peut l'aider ? La réponse, c'est oui. Et la réponse, c'est la vie, la santé. C'est ça, avoir une prise en charge multiangulaire, plein de spécialistes autour de vous, refaire de l'activité physique, faire du jardin, mais ce n'est pas une blague, mais avec les bons professionnels autour de vous. Voilà un peu ma réponse.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Non, alors je vais lire.
Alors, vous avez une question là ? Vous voulez le micro ?
Oui, excusez-moi, c'est qu'il y a beaucoup de alors, questions.
Oui, question.
Vous voulez pas la poser ?
Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si une hernie discale doit être opérée systématiquement ou pas.
Bon, vision médicale et je pense aussi chirurgicale vont se rejoindre. Et kiné, non. C'est uniquement en cas de douleur de sciatique ou de cruralgie, uniquement. On peut très bien avoir, j'exagère, mais 5-6 hernies discales. Et s'il n'y a pas de douleur qui part dans la jambe, il n'y a pas d'intérêt à intervenir. Il faut une concordance aussi clinique pour décider éventuellement d'un geste. C'est le même principe, par exemple, pour une infiltration dans le cas du sciatique. Il n'y a pas de douleur de sciatique ou de cruralgie et qu'il y a uniquement une douleur au niveau du dos, on ne va pas proposer d'infiltration par voie épidurale.
Autrement, j'ai plein de questions, si ça ne vous ennuie pas.
Mais il n'y a pas de souci, madame. Alors, si c'est après, c'est des questions personnelles, franchement, à la fin, on sera ravis d'y répondre à titre personnel. Mais sur la hernie discale, c'est vachement important parce qu'il faut quand même que les messages forts passent de notre côté. Jean-Philippe vous a montré que si on fait un scanner ou une IRM à tous les gens de cette salle, quand on a plus de 30 ans, il y en a au moins, si on est 100 ce soir, il y en a au moins 6 à 10, voire plus, qui ont des hernies discales à plein d'endroits, et peut-être moi. Donc un patient, quand il arrive en consultation, il dit « Je viens pour ma hernie discale, docteur. Regardez, il faut m'opérer. » Et nous, notre boulot, c'est de dire « Attention, voilà, il y a tous ces barrages à franchir. Il faut qu'on ait mal à la jambe, pas dans le dos. » Parce que nous, quand on opère quelqu'un d'une hernie discale, on lui soulage la jambe, jamais le dos. Une hernie discale ne fait pas mal au dos, elle fait mal au nerf sciatique. C'est deux choses différentes. Attention, il faut avoir essayé tout ce qui est en amont avant d'une opération. Attention, l'opération peut aussi aggraver certains types de douleurs. Et c'est quand on a passé tous ces barrages qu'il faut regarder l'IRM du patient et lui faire comprendre qu'il n'est pas venu là pour une hernie discale, mais pour une douleur qui peut correspondre ou pas à cette hernie discale. Très important, ça. Hein, voilà. D'autres questions? Alors, si elles sont vraiment hyper perso, vous venez à la fin, on en discute. Si elles sont générales, il n'y a pas de souci, on est là pour y répondre. Allez-y, madame. Mettez le micro bien en face de...
Oui, voilà. Comment trouver un kiné qui pratique la méthode McKenzie à Poitiers?
Ah, la question facile. Merci, hein, parce que c'est que des questions difficiles pour l'instant, là ça va.
Sur le site de l'association, il y a un listing. Donc le site de l'association, vous tapez Association Française McKenzie, vous avez un listing. Ou vous avez aussi le site de l'Institut McKenzie, c'est l'organisme qui donne les cours en fait. Et vous avez un listing des kinés qui ont suivi la formation complète.
Bon, d'accord, merci.
C'est hyper simple, vous allez sur Google, vous tapez McKenzie France, vous tombez sur leur site, ils sont hyper bien organisés, il y a la carte de France dans votre région et les kinés qui sont certifiés tel type, tel type, tel type.
Tous ceux qui ont fait la formation complète, en fait, qui ont suivi la formation et qui ont passé l'examen, ils seront sur la carte. Donc, est-ce qu'ils pratiquent bien ou pas? Bon, au moins, on sait qu'ils ont fait la formation et qu'ils ont, qu'ils ont validé leur examen.
Oui, alors on m'a donné une question que je vais vous lire, qui est très longue. Quelle est la place du service de rhumatologie du CHU de Poitiers dans le parcours de soins du patient handicapé atteint de pathologie rhumatismale, inflammatoire, immunitaire, SPA, traité par biothérapie à prescription hospitalière? Refus d'examen clinique, d'examen du dossier, doit-on se faire soigner hors région, APHP, point d'interrogation.
C'est une question qui est précise. Précis. Alors, la rhumatologie, c'est une spécialité qui a énormément évolué, parce qu'effectivement, elle part dans des directions différentes. Je parle sous le contrôle de Julien, effectivement. La rhumatologie, il y a différents champs de cette spécialité qui vont dans des directions très différentes. Et s'il y a encore une place vraie à donner au CHU de Poitiers, clairement, c'est dans cette thématique-là que vous évoquez, c'est-à-dire les molécules qu'on peut donner dans le cadre des maladies inflammatoires qui touchent tout l'organisme, et le dos en particulier, ça s'appelle les biothérapies, ou les immunothérapies, ou les chimiothérapies, parfois dans des maladies graves comme la polyarthrite rhumatoïde et autres. C'est-à-dire des produits qu'on donne par voie générale pour améliorer des problèmes de dos, donc de la lombalgie, hein, dont on n'a peut-être pas assez parlé ce soir, on s'en excuse, mais on y revient là, qui serait en rapport avec une maladie chronique de l'organisme, une maladie qui peut être assez sérieuse, quoi. C'est les polyarthrites, c'est le lupus, c'est les maladies inflammatoires chroniques. Et ça, effectivement, c'est des problèmes très pointus, très spécifiques, qui relèvent de traitements très spécifiques, avec des bilans qui passent souvent par une hospitalisation. Et c'est la place d'un service hospitalier de rhumatologie. Alors, à Poitiers, ils font ça très bien. À la PHP, ils font ça très bien aussi. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut quand même comprendre que ce pourcentage-là, dans la lombalgie, c'est extrêmement, extrêmement faible par rapport à la lombalgie commune de l'aide-soignant qui a mal au dos parce qu'il passe sa journée à soulever des patients et à les retourner, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas assez insisté, mais c'est important aussi qu'on replace le débat par rapport à ce qu'on a dit, la lombalgie commune, le mal de dos, ce qui touche 80% des Français. La lombalgie sur maladie inflammatoire chronique dans le cadre d'un lupus, c'est peut-être 0,005% de ces gens-là. Et je laisse bien entendu le rhumatologue rebondir là-dessus puisque c'est lui qui a toute la légitimité pour répondre de façon précise à cette question.
Donc, bon, déjà, je ne suis plus au CHU, mais ça, ce n'est pas le problème. Globalement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout service de rhumatologie va être confronté à ces problèmes de lombalgie, malgré tout, de sciatique, parce qu'on arrive quand même à des gens qui passent par les urgences pour des lombosciatiques très aiguës. Donc, soit ils vont... sciatique très aiguë qui évolue depuis moins d'une semaine, généralement, elle ne va pas finir en chirurgie et se faire opérer le lendemain de son admission dans un service de chirurgie. Ce n'est pas l'objectif. Et là est la place, par exemple, de la rhumatologie. Et après, ça comporte aussi, après, en effet, toutes les maladies du système immunitaire et tout autre problème lié à l'ostéoporose quand les gens ont des fractures vertébrales ou souvent, c'est vrai que les gens qui sont hospitalisés de façon plus... dans les soins longs en hospitalisation, souvent c'est plutôt les lombalgies symptomatiques, donc les problèmes infectieux, problèmes tumoraux dans les découvertes de tumeurs sur des atteintes osseuses initiales. Et là où les médecins de rhumatologie vont faire cette prise en charge diagnostique. Et en effet, on a aussi, ils sont confrontés aussi à ces patients qui sont hospitalisés pour des sciatiques ou des lombalgies. Et après, c'est aussi une activité de consultation. Et il y a de toute façon des consultations pluridisciplinaires, chirurgiens et rhumatologues, ou chirurgiens rééducateurs et rhumatologues, dans la prise en charge des lombalgies chroniques, et après qui interagissent aussi également avec le centre antidouleur. Donc voilà, pour cette réponse. Mais en tout cas, tout le monde, les maladies rhumatismales type inflammatoire sont prises en charge au CHU, comme partout un peu en France, quoi.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui.
Bonsoir. Est-ce que votre laboratoire ou votre activité est en lien avec le centre de recherche antidouleur ou alors la partie médecine interne ?
Alors, il implique carrément des gens du centre antidouleur, en fait, qui font les recherches directement. Alors, ils utilisent le cadre de notre laboratoire. Ils utilisent nos outils. Pour vous donner un exemple, par exemple, en ce moment, au centre antidouleur, on a un protocole où on va tester de manière la plus objective possible, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, une nouvelle crème à base de piment qui s'appelle la capsaïcine et qui est très connue à l'étranger et qui permet parfois d'endormir une zone de façon durable pour diminuer une douleur très focale. Bon, la capsaïcine, on ne savait pas trop si ça diminuait beaucoup ou pas les douleurs. Ils vont utiliser notre logiciel pour voir à quel point, de manière très objective, ça diminue la surface des douleurs grâce à un projet qu'ils mènent à Prismatics, mais avec les patients du centre antidouleur. Okay. L'étude Predibac qui vous a été présentée par Nicolas, c'est une étude où les patients avaient des douleurs post-opératoires et se présentaient au centre antidouleur pour être intégrés dans cette étude. Donc on travaille main dans la main, là encore, avec eux pour faire un seul et même corps, si j'ose dire.
D'accord. Et donc moi, je suis allé au centre au mois de juin pour une prise en charge médico-psychologique d'urgence. Et j'ai toujours pas de nouvelles et je ne sais pas en quoi consiste la démarche d'hospitalisation. Parce que dans tout ce que vous avez présenté, moi j'ai à peu près la totale. Et polytraumatisé, etc. Et depuis le mois d'avril, je n'ai toujours pas réussi à trouver la porte d'entrée pour me faire hospitaliser.
Alors, il y a plusieurs choses. On arrive sur des dossiers très personnels. Donc là, à ce moment-là... Il faut qu'on fasse attention parce que c'est un débat collectif et il ne faut pas qu'effectivement, mais on va répondre à votre question monsieur, on ne l'éludera absolument pas, mais tout le monde peut venir présenter une détresse, une difficulté ou une problématique particulière à laquelle je serais ravi de répondre, mais en aparté, pour pas, à un moment donné qu'on ne mélange pas tout. En l'occurrence, vous réclamez une hospitalisation et moi ma réponse...
Un accès et la porte.
Oui, mais vous dites,
monsieur, c'est l'accès et la porte
vous nous
pour
dites
que les douleurs dont vous avez un peu parlé, pour que ça s'arrête, puisque j'en étais d'après l'expertise au point où la douleur a perforé tout le système, elle est arrivée tout au bout.
Peut-être vous pourrez répondre en aparté après.
Non, mais si attends, il évoque quelque chose d'important
voilà,
parce que
c'est l'accès à la porte pour être soigné de ça, puisque. Une fois que, vous savez, quand la douleur est arrivée tout au bout, on arrive proche de ce que vous avez tout à l'heure. On peut aussi arriver au passage à l'acte parce qu'on ne peut plus supporter. Et le passage à l'acte, c'est où on se suicide, où on tue quelqu'un. Parce qu'on ne peut plus supporter le quelque chose ou le quelqu'un qui amplifie et qui appuie encore sur la douleur.
On est complètement dans.
Laissez répondre le professeur.
On est complètement.
Et le délai, donc quand vous êtes prêt à tuer quelqu'un, le délai de 6 mois pour passer du moment où vous avez demandé l'aide et le moment où on va peut-être vous hospitaliser, et dans quel service on va vous hospitaliser?
Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, monsieur, et c'est une situation qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. La première chose, c'est que vous nous demandez où est la porte d'entrée, et vous nous dites en même temps, j'ai vu le centre antidouleur en juin dernier. Donc en fait, la porte d'entrée, vous l'avez franchie. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites, quand est-ce que je vais me faire hospitaliser? Et à peu près 99% de la prise en charge en centre antidouleur sur les douleurs chroniques qu'on peut vous proposer ne passe pas par une hospitalisation. Donc c'est une deuxième chose. Et c'est important que vous le compreniez, parce que les 10 patients douloureux chroniques que j'ai vus aujourd'hui au bord du suicide aussi, ils ne seront pas hospitalisés forcément. La troisième chose, c'est que dans la souffrance psychologique, puisqu'on a parlé de douleur aujourd'hui, mais derrière la douleur, il y a la souffrance, et c'est ce que vous évoquez là, il faut mesurer l'intensité de la détresse et le degré de la détresse, effectivement, pour caler le degré d'urgence de prise en charge, et que quelqu'un qui peut devenir dangereux vis-à-vis de lui-même ou des autres, comme vous l'exprimez, il puisse être canalisé et aidé à ce moment-là. La problématique du délai que vous soulevez, elle est très importante. C'est qu'en France, moi, mes prochains accès aux consultations multidisciplinaires, des gens qui m'écrivent des courriers en disant qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils souffrent depuis des années et qu'ils ont fait à la limite 500 antidouleurs et qu'il faut régler le problème maintenant parce que c'est toujours pas le cas, j'entends qu'ils veuillent, un magicien, deux, qu'on règle le problème et qu'on fasse mieux que tous ceux qui ont fait avant, et trois, que ce soit rapide. Mais moi, mes prochaines places en consultation multidisciplinaire, alors que je travaille comme un mulet et qu'aujourd'hui j'ai fait l'aller-retour à Niort et que je ferai l'aller-retour à Niort à La Rochelle la semaine prochaine et qu'on fait 6 consultations multidisciplinaires par mois, quand je vous dis qu'on met 1h30 pour écouter un patient en détresse, le corollaire, c'est que les prochaines places disponibles en consultation multidisciplinaire dont je vous ai parlé, on va être très clair, hein, c'est février ou mars, sauf degré d'urgence estimé par le praticien de proximité qui doit vous prendre en charge et qui vous a accueilli en juin dernier. Donc il faut se rendre compte de ça. Alors c'est un constat terrible, hein. Pourtant nous on travaille beaucoup, puis vous êtes en souffrance et puis les deux sont pas contents. Mais au Canada, vous connaissez le délai moyen d'attente pour accéder à un centre antidouleur? 8 ans. C'est-à-dire quand vous avez mal, vaut mieux prendre votre rendez-vous assez tôt, hein, parce que c'est 8 ans après que vous aurez accès à la profession qui va vous aider. Donc le monsieur, là, il soulève un problème très important. Vous concernant, vu ce que je viens d'entendre ce soir, il est urgent qu'on vous réévalue au centre antidouleur et qu'il y ait un soutien global et psychologique qui se mette en place, puisque vous éprouvez une souffrance importante avec une dangerosité que vous manifestez clairement. Et l'explication après, vous avez un professionnel de santé qui vous a reçu en juin. J'espère que oui, il vous a bien expliqué, vous avez bien compris, mais normalement, en tout cas, il y a quelque chose qui a été mis en place. C'est le but du centre antidouleur. Et là, pour travailler tous les jours avec ces gens-là, aujourd'hui, il y a des gens incroyables, tous des gens bien, de ceux que je connais, et j'espère qu'en tout cas, on arrivera à trouver une solution. Et venez me voir à la fin, on va régler ça ensemble. Le numéro, c'est le 43 915 au niveau du poste, et il faut qu'on vous revoie rapidement, monsieur, ça c'est clair. Hein,
on a 2 questions. Madame, vous avez le micro. Oui.
Bonsoir. Est-ce que vous êtes amenée à orienter vos patients vers des programmes d'éducation thérapeutique? Première question. Et qu'est-ce que vous pensez du programme RFR pour de la rééducation avant une opération ou
on adore.
À long terme.
On adore. L'éducation thérapeutique, pour moi, c'est 50% du boulot et on ne l'a pas assez fait jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, un patient, il y a une génération qui change. Hein. Il a besoin autant de coaching sur ce qu'il va devoir faire de sa vie avec un peu moins de douleur ou beaucoup moins de douleur après que l'acte technique lui-même. Donc c'est quelque chose qui a été totalement sous-estimé. On a ouvert une maison d'éducation thérapeutique Villa Santé. On a alimenté cette maison avec des programmes d'éducation thérapeutique qu'on a déposés à l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Ils ont été acceptés il y a quelques semaines sur la lombalgie. Et c'est Dr Naidich et puis Maxime Billot, le coordinateur du labo Prismatics, qui est là, juste à vos côtés, là, 2 personnes près, qui en seront les responsables, avec le centre antidouleur. Et on a un programme spécifique pour les gens qui vont avoir potentiellement accès à la stimulation médulaire dans le cadre des douleurs chroniques réfractaires. Et c'est très important aussi. Donc ça, c'est totalement sous-estimé. C'est une énorme clé du problème. Il faut mettre des moyens là-dessus. C'est difficile d'en mettre aujourd'hui parce qu'on est dans le système qu'on a décrit tout à l'heure où on n'a plus de pognon pour soigner les gens. Et c'est très difficile de montrer la valeur ajoutée de ces programmes à des gestionnaires d'hôpitaux qui doivent investir des millions là-dedans pour que ça marche, construire des bâtiments, mettre du personnel, mettre des psychologues, mettre des coachs sportifs, mettre des gens qui font de la méditation pleine conscience et tout ça. C'est pas facile. Mais en tout cas, il y a un vrai virage qui a été pris par l'ARS, par les gouvernements, et c'est quelque chose qui va se développer énormément dans les années et les mois qui viennent. L'ARFR, j'en dis juste deux mots, puis je laisse la place aux gens qui la font. L'ARFR est dans le service unitaire Achis. On a un programme qu'on appelle RAC, c'est-à-dire récupération rapide après chirurgie. Moi, mon père, il va se faire opérer de la hanche dans le sud de la France, parce qu'ils sont dans le sud, et il va arriver le matin pour sa prothèse de hanche, il va sortir 4 heures après. Et aujourd'hui, ça doit devenir le standard de la prothèse de hanche. Donc, dans la chirurgie du rachis, c'est plus 5 jours en décubitus strict, dans le lit, sans bouger, à la belle époque de Mylène. Aujourd'hui, quelqu'un qui se fait opérer du dos, il faudrait qu'il puisse arriver en chirurgie ambulatoire, qu'il arrive le matin et qu'il parte l'après-midi après sa chirurgie. Et croyez-moi ou pas, je l'ai vécu à Chicago et j'ai vu les patients en salle de réveil s'habiller en civil et prendre leur affaire, leur pantalon et le reste et partir directement chez eux. J'ai vu ça au Canada, quand ils habitent à Chicoutimi et que vous les opérez à Québec, vous les surveillez, c'est à Montréal, vous les surveillez pendant 5 heures, puis au bout de 5 heures, vous dites « Ciao mon gars, bon retour ». Et il est à 800 km. Et quand il neige, en traîneau. Hein. Donc, c'est des choses qui ne sont pas du tout déraisonnables. Pourquoi ? Ça vous choque aujourd'hui ce que je dis. Pourquoi ? Mais c'est parce que le patient, il a été complètement préparé en amont. C'est parce qu'il a été préconditionné physiquement. C'est parce qu'il a eu toutes les informations de la chirurgie pour que ça se passe au mieux et qu'il connaît le plan, qu'il a visité virtuellement avec une visite informatique et qu'il sait où il va dans le service. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui au CHU de Poitiers. Hein. Parce que j'ai accompagné quelqu'un de très proche pour un rendez-vous il y a 3 jours parce qu'il y a un problème dans son cerveau. Et la secrétaire lui a dit c'est au premier étage du bâtiment CCV, alors qu'on a un espèce de génie au CHU de Poitiers qui a créé le rez-de-chaussée égale moins 1. Donc je ne sais pas si ce gars-là, je le retrouve, on va lui faire sa fête. Hein, parce qu'il a plombé 25 000 patients pendant 25 ans, quoi. Donc, la secrétaire dit que c'est au premier étage, là où il faut appuyer sur zéro à l'ascenseur. Je ne sais pas si vous imaginez, le gars, le jour, il va arriver pour son artériographie cérébrale, quoi. Donc, je ne fais pas de la pub pour le CHU, mais c'est un problème complexe qu'il faut essayer de voir dans son ensemble. Donc, quand vous arrivez pour une opération, que vous avez une infirmière qui va vous appeler le soir, c'est le cas au Canada ou à Chicago, qui va vous demander comment ça va à 18h, 20h le soir, qui va y avoir une assistance téléphonique 24 heures sur 24 si vous avez un problème avec votre pansement, et puis qu'il y a tout ça qui est mis en place autour de vous, la chirurgie, c'est velours. C'est ça le concept de récupération rapide après chirurgie. On va essayer de le mettre en place. Non seulement là, c'est ce qui est en train de se mettre en place sur le rachis, c'est l'unité, mais en plus, on va essayer de le documenter de manière objective avec les outils que vous avez vus et la cartographie pour qu'on puisse démontrer en extrapolant médico-économiquement, ça plaît beaucoup à nos gouvernements, mais ils ont raison, que ça coûte moins cher. Parce qu'un douloureux chronique lombalgique, dans le projet Prédibac là, qu'on a analysé sur ces 200 patients, est-ce que vous imaginez qu'il y avait des patients qui ont fait 793 séances de kinésithérapie basées sur les papouilles sur le mollet que Jean-Philippe vous a montré ? J'adore les kinés. Regardez, je l'ai invité, c'est mon meilleur élève, je suis hyper fier de lui. Mais un kiné qui fait des papouilles à lombalgie chronique neuropathique, excusez-moi, il est à côté de la plaque.
Justement, je crois qu'il voulait rajouter quelque chose, le kiné.
Bah, quand ils font ça, non. Enfin, là, quand ils font des trucs comme ça, je suis pas fier. Enfin,
pour revoir le système globalement. Là.
Et par exemple, alors pour rebondir un peu sur ce que vous dites là, et pour rebondir sur ce que dit le professeur Grégoire, par exemple là, concernant l'éducation thérapeutique, moi je travaille en cabinet de ville, et c'était avant-hier, on a fait une soirée avec des chirurgiens parisiens, et on a mis en place, enfin, on va commencer à mettre en place un partenariat, et dans le partenariat, donc, il va y avoir de la sélection de patients. Il va y avoir des évaluations de patients avant opération pour déterminer si oui ou non on peut les récupérer en kiné avant qu'ils se fassent opérer et voir leur éviter une chirurgie, mais également chez les patients qui vont être opérés, en fait, où là pour le coup nous on peut rien et le chirurgien bon, il arrive à la conclusion que lui il va falloir lui faire une opération, on va faire une ou deux séances centrées éducation thérapeutique où on va lui expliquer ce qui va se passer en chirurgie, on va lui expliquer ce qui va se passer après la chirurgie, on va lui expliquer ce qu'on va mettre en place au cabinet et on va commencer à faire les gestes au cabinet avant qu'il fasse sa chirurgie. Pour que quand on commence, en fait, bah, ce soit beaucoup plus facile, en fait. Et ça, c'est un partenariat. On en a discuté il y a 2 jours. Là, on va commencer à le mettre en place, en fait, en cabinet de ville. Et en plus, c'est une clinique privée de chirurgie. Donc, en fait, c'est vraiment un truc qui sera extra CHU, quoi. Et pour ce qui est des programmes de RFR, moi, je trouve ça vachement efficace quand il y a l'indication qui est bien posée. Donc, quand le patient est vraiment déconditionné. Et quand il est, et moi j'aurais tendance à dire, mais ça c'est mon petit biais, j'aurais tendance à dire quand il n'y a pas des préférences directionnelles, parce que là ça peut foutre en l'air un peu pas mal de choses. Et au-delà de ça, même sur certains lombalgies chroniques où il n'y a pas de préférences directionnelles, par exemple il y a des équipes australiennes qui bossent beaucoup sur ce qu'ils appellent le contrôle moteur, mais il y a des patients qui, en fait, des patients lombalgies chroniques qui vont avoir des activations en fait trop important de certains muscles sur certains mouvements. Et eux, en fait, la stratégie, ce ne sera pas de les renforcer, en fait. Il faut au contraire leur réapprendre à faire le mouvement, mais en relâchant, en fait. C'est des patients qu'on voit en mode Robocop et qui se penchent tout, en contractant tout partout. Et eux, je pense qu'un programme de RFR sur un patient comme ça, ça ne marchera pas. Et voir, ça peut renforcer un peu le problème. Et ça, j'en vois au cabinet, ces patients-là, il n'y a pas de préférence directionnelle chez eux. Et moi, mes stratégies, c'est plutôt lui montrer que le mouvement, quand il le fait relâcher, quand il le fait de manière relaxe, etc., ça passe vachement mieux, en fait. Et donc, c'est une question, je pense, c'est important. Et il faut sélectionner le patient qui est vraiment, vraiment déconditionné et qui n'a pas d'autre truc à côté. Et là, quand c'est comme ça, alors là, oui, ça marche vraiment très bien.
Le bon patient, la bonne thérapie, le bon chemin.
Oui, j'ai deux amours dans ma vie. J'ai la sociologie, donc évidemment, ça biaise complètement ma façon de voir les choses. Et puis, j'ai ma copine qui est assistante sociale au CHU de Poitiers. Et donc, il y a un message qui me tient toujours très à cœur, c'est de dire, mais n'oubliez pas les assistantes sociales. Déjà, évidemment, dans les techniques de RAC, il y a un élément qui est important, c'est qu'il y a une évaluation sociale du patient qui doit être faite en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois que le patient a été opéré et qu'il est dans le jaja et qu'il a le mal au dos parce qu'il y a les douleurs post-opératoires, etc., qu'il doit y avoir la consultation d'une assistante sociale pour anticiper le retour à domicile. Évidemment, si vous retournez chez vous et que vous êtes incapable de cuisiner, que vous ne savez pas comment vous allez faire votre toilette et que vous êtes tout seul à la maison ou que votre conjoint y travaille, bah, c'est des questions qui vont se poser en amont et qui vont être extrêmement importantes. Et sur l'éducation thérapeutique, alors c'est une question qui fait beaucoup débat dans le monde de la sociologie. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment positif ou pas? Eh bien, on a beaucoup parlé des psychologues, de la mésothérapie, de tout ce qui est un peu méditation et tout ça, mais ne pas oublier aussi que dans les programmes de TP, il faut intégrer les travailleurs sociaux, parce qu'en général, les patients, et c'est exactement ce que je vous ai montré sur les données Predibac, ce sont des personnes qui sont en rupture professionnelle, ce sont des personnes qui sont complètement désocialisées. Et donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont être importants à placer, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui que les personnes qui vont adhérer au programme d'éducation thérapeutique, c'est pas les personnes... Nous sommes instruits. On a eu la chance d'aller à l'école, on a eu la chance, enfin nous en tout cas, on a la chance de faire des professions qui sont dites intellectuelles. C'est facile pour nous de nous sensibiliser sur ce genre de choses. C'est facile pour nous de faire les exercices que le kiné nous dit. C'est facile pour nous d'adhérer à un programme d'éducation thérapeutique. C'est peut-être plus compliqué quand vous avez des conditions de vie, des conditions d'éducation qui ne sont pas aussi favorables que les nôtres. Donc c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en compte dans les programmes d'éducation thérapeutique. Voilà.
On va prendre une dernière question et puis je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir.
Bonsoir, je voulais savoir, quand on est orienté par notre médecin pour chercher un kiné, est-ce qu'on doit privilégier un cabinet où les kinés font la méthode McKenzie ou pas?
Ah, je lui laisse pas le micro. Ah là, je lui laisse pas le micro.
Réponse totalement non biaisée.
Ça va être difficile de dire non.
C'est compliqué parce que la soirée qu'on a ce soir ensemble, il faudrait qu'on l'ait aussi avec les médecins généralistes de Poitiers. Parce que des fois... on a des gens, pas que de Poitiers, comme dit madame. Parce qu'en fait, au sein même de nos professions, vous voyez qu'on a des éducations différentes, on a développé des réseaux différents, et on est face à une pathologie compliquée sur laquelle c'est toujours plus simple d'adresser un copain, mais ce n'est pas parce qu'on est copain avec lui, c'est parce que c'est une filière ou un réseau qui fonctionne. Et c'est encore plus compliqué, quand ça fonctionne, de dire, on va changer. Puis maintenant, on est allé à une soirée, donc maintenant c'est McKenzie, hein, attention. Hein. Mais ce que je vous invite à faire, il y a quand même une autonomie vis-à-vis du patient. Hein. Je redis toujours, vous n'êtes pas obligé toute votre vie de dire que les croissants que vous achetez chez le boulanger A, ils sont dégueulasses, il vaut mieux changer de boulanger, et ce n'est pas facile de trouver des bons croissants. Et vous pouvez, à un moment donné, avec votre prescription de kiné, tapez McKenzie France sur Google, allez voir un professionnel certifié et vous faire une idée de ce que ce professionnel vous apportera par rapport à de la kiné conventionnelle. Voilà. C'est plutôt comme ça, c'est peut-être vous qui convaincrez votre médecin traitant qu'il y a un truc à voir vis-à-vis d'un autre réseau qu'il n'a pas été en mesure de développer, mais pas parce qu'il ne veut pas, c'est une question d'échange. La soirée qu'on a ce soir, elle est vachement importante. Bien sûr, il fallait que ça dure qu'une heure, mais on voit que la richesse des discussions, elle est maintenant, quoi. Parce qu'effectivement, c'est ça qui est c'est le suc de la discussion qui va nourrir la suite, là.
Juste intervenir quand même. Je pense que la technique McKenzie en kiné est une très bonne technique. Après, il y a des échecs malgré tout qui arrivent avec cette technique, parce que après, ça va dépendre toujours de la cause de la douleur. Et il y a d'autres techniques comme la technique Mézière ou d'autres qui ont aussi une efficacité. C'est pas tout Mackenzie. Et puis, faire juste la position du cobra et puis c'est fini, c'est pas que ça non plus. Le Mackenzie, il y a aussi malgré tout tout le reste qui va avec. C'est les règles d'hygiène lombaire, c'est le renforcement musculaire. Et après, tout n'est pas adapté, d'accord ? Et après, ça dépendra toujours de la cause. Or, le Mackenzie a été quand même beaucoup plébiscité, surtout sur les problèmes de conflit avec un problème de hernie discale qui marche très bien. Mais quand vous faites, ça marche aussi chez les gens qui ont de l'arthrose, qui est plutôt située à la partie arrière au niveau du dos, mais c'est généralement, c'est plutôt l'effet inverse. Et ces gens-là, si vous leur demandez de se cambrer en arrière avec de l'arthrose tout le long de la partie postérieure de la colonne vertébrale, généralement, ces gens-là, ils n'apprécient pas trop de la position du cobra. Donc, il faut, voilà, c'est vraiment, il faut faire attention. Il ne faut pas se dire, boum, ça y est, c'est du Mackenzie. Après, il est vrai que la kiné, ce n'est pas juste des électrodes. C'est, il faut, voilà, il y a kiné et kiné, en effet. Et il y a plein de types de kiné, de techniques de kiné qui sont intéressantes. Et le Mackenzie en fait partie. D'accord.
Ce que dit le docteur Girondon est extrêmement important. Hein. C'est la richesse vient de la pluralité. C'est toujours pareil. Je rebondis juste sur la position du cobra, parce que ça, par contre, c'est quelque chose que vous lisez partout quand on veut détruire cette technique. Et après, je te laisse la parole. Ce que vous a montré Jean-Philippe, c'est qu'il y a une position pour un patient, pour une donnée très précise, avec une étiologie, c'est-à-dire une cause mécanique. Donc, souvent, c'est la position fameuse du cobra ou les pompes grenouilles, parce que ça marche, mais pas tout le temps, et c'est tout le rôle de l'examen Mackenzie fait par un bon. Et c'est là encore la différence entre le bon croissant et le bon croissant, quoi. Donc ça, c'est important que vous le compreniez aussi, parce que le but, c'est pas d'aller voir quelqu'un qui va vous faire faire 50 pompes grenouilles, comme d'habitude, comme tous les gens qui font du Mackenzie. C'est pas ça, la technique Mackenzie. Mais par contre, effectivement, le fait de ne pas dire « je vais faire du Mackenzie en systématique sur les gens », c'est très important que vous le compreniez parce que ce n'est pas le but de cette soirée. Hein. Le Mézière dont a parlé le docteur Girondon, c'est une très, très, très bonne technique pour d'autres patients. Une fois encore, la clé, le bon patient, la bonne thérapie, le bon soignant, le bon chemin, c'est toujours pareil. Donc, Jean-Philippe a quelque chose à vous dire par rapport à ça et sa pratique, je pense.
Ouais. Alors, on va dire que la première séance, en fait, elle est assez déterminante puisque c'est là on détermine s'il y a l'indication ou pas. Et s'il n'y a pas l'indication, il n'y en a pas de Mackenzie, en fait. Hein. Et ce n'est pas pour tout le monde, en fait. Mais sauf qu'il y a une évaluation à faire, il y a un bilan à faire, et c'est ça qui détermine, en fait, la suite. C'est par exemple, alors, moi, je donne des cours, enfin, je forme des kinés également à la méthode Mackenzie. Et le dernier cours que j'ai fait la semaine dernière, pendant le cours, on traite des patients. Et il y a une patiente qui vient, qui est envoyée par un kiné, je crois qu'il fait du Mackenzie, enfin, je ne sais pas, ou plus ou moins. Bref, la patiente, elle me dit que pendant 6 mois, il le fait faire deux fois par semaine. Et elle venait au cabinet, il lui faisait faire du Mackenzie, en fait. Et ça, et la patiente est toujours pareille. Donc en fait, non, ça c'est la même chose que le kiné papouille, quoi. Enfin, c'est pas bon, quoi. Et la patiente est venue, je l'ai évaluée devant le cours, devant les 30 personnes, et la patiente s'était pas indiquée Mackenzie. Je lui dis non, ben là, ce sera pas, enfin ça marchera pas. Et il faudra partir sur autre chose. Et moi, dans ma pratique, heureusement que je ne fais pas que ça, parce que je traiterai que la moitié, voire allez, dans le meilleur des cas, 2/3 des patients que je vois, sinon pour les autres, il faut que je fasse autre chose. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des patients qui vont avoir des problèmes qu'on dit de contrôle moteur, c'est-à-dire qu'ils contractent tout quand ils bougent. Ben, eux, c'est pas du Mackenzie pour eux. Il y a des patients qui vont être déconditionnés, c'est-à-dire qu'ils ont été très sédentaires pendant longtemps et c'est ça qui pose problème. Et là, pour le coup, ben là, c'est le coach de sport, là, va falloir les faire bouger. Il y a une phase d'évaluation qui permet de donner le traitement. Et souvent, alors, c'est pour terminer. On dit souvent que la kinésithérapie a échoué ou qu'il faut faire de la kinésithérapie. En fait, pour moi, c'est un peu un abus de langage. Ça serait comme dire que la médecine a échoué ou qu'on ferait de la médecine. En fait, et qu'est-ce que vous faites? Bah, dans la médecine, il y a les médicaments, il y a tout un tas de types de médicaments, il y a tout un tas de types de traitements, il y a les chirurgies, il y a les neurostims, etc. Et dans la kiné, bah, il y a tout un tas de choses qui doivent s'appliquer de manière spécifique aux patients en fonction de l'évaluation qu'on fait. Et donc, ben, non, ce ne sera pas pour tout le monde. Il faut l'évaluer. Le cas que je vous ai montré, là, les cas que je vous ai montré, sur la série de patients que j'ai, là où je commence à collecter les données là, avec le logiciel de Philippe, pour l'instant, j'ai 8 patients, j'en ai 4 qui ont centralisé. Et les 4 autres, ils n'ont pas centralisé. Donc, ils ne sont pas traités en Mackenzie.
On a dépassé un petit peu le temps qui était imparti. Merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions. Je vais prendre quelques... Oui, on peut les applaudir, bien sûr. Je vais prendre juste quelques secondes pour vous annoncer la prochaine conférence du Pôle Info Santé. Ce sera le jeudi 12 décembre à 18h30 sur le thème de la médecine légale. un tout autre programme. Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez bien nous rendre les questionnaires de satisfaction, j'en ai déjà reçu quelques-uns. Merci beaucoup.